Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
Bonjour à tous pour cette belle journée d'été. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent.
Vous avez bronzé Marine déjà.
Déjà
ça doit pas être en studio. Ah bah oui, parce que c'est le début de l'été. Ça je vous l'ai dit. Allez, c'est parti pour 2 heures de route. Ensemble, nos routes de l'été qui nous mèneront tout à l'heure vers les rivages enchanteurs de la côte basque. De Bayonne à Saint-Jean-de-Luz, en passant par Anglet, Biarritz, dans les PA. Parce que hier, on était dans les PO, les Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, on est les PA, les Pyrénées-Atlantiques.
Vous aimez bien tout ce qui est lettres, chiffres, anagrammes.
Ah oui, oui, les acronymes, les diminutifs. Oui, j'aime bien ça. Effectivement, vous avez raison. Et comme chaque jour, nous parlerons produits, spécialités, belle cuisine avec nos amis sur place. Et nous recevrons un chef basque et un ami, Christian Etchebest, pour discuter de la belle cuisine de la région, ici même en studio. Mais tout d'abord, comme chaque matin, nous allons débuter par nos questions d'été en rapport avec l'actualité. On va essayer de répondre aux questions que vous posez sur vos lieux de vacances ou au moment de préparer vos vacances. Ce matin, la question, c'est quelles conséquences a eu la canicule sur l'agriculture? Alors, on y répondra avec des spécialistes en donnant la parole aux régions. Et si vous souhaitez poser directement vos questions, n'hésitez pas à appeler jusqu'à 11h moins le quart notre standard sur Sud Radio au 0826 300 300. Voilà, mais d'abord, on va démarrer avec notre revue de presse des régions.
Sud Radio, les routes de l'été, la revue de presse des régions.
Oui, je sais que c'est important et c'est Marine, elle aime bien fureter dans la presse quotidienne régionale pour trouver des bons petits news, comme on dit. Alors à la une ce matin de la montagne et du Dauphiné libéré, évidemment les intempéries qui ont sévi hier soir.
Oui, et les pompiers restent à pied d'œuvre pour venir en aide aux sinistrés. Coupures d'électricité, incidents de transport, des orages accompagnés de vents violents et des chutes de grêle parfois de la taille d'une balle de tennis.
Aïe, aïe, aïe. Hein.
Et oui, et ça a causé de nombreux dégâts sans faire de victimes, heureusement, en Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous donne quelques chiffres. Pas moins de 5600 éclairs ont touché le Puy-de-Dôme hier soir. Dans les Alpes, 100 000 coupures d'électricité ont été recensées par Enedis. 49 000 foyers sont encore dans le noir ce matin. Et ça a aussi eu des conséquences sur le trafic ferroviaire. Les chutes d'arbres ont contraint la SNCF à stopper un TGV Paris-Grenoble à Lyon-Saint-Exupéry. Les 182 passagers ont dû passer la nuit dans le train. La faute à une capacité hôtelière insuffisante, selon la SNCF. Et on n'en a pas fini avec les intempéries.
Écoutez, je veux pas minimiser. C'est sûr que c'est difficile. Mais quand on a vu les images de Guadalajara hier au Mexique... Non, ouais. Ah bah attendez, j'ai été moi-même un chanteur dans un groupe typique mexicain. Non, je plaisante.
J'ai vu les images, elles sont assez impressionnantes. Oui.
Plus d'1,50 m jusqu'à 2 m de grêlon dans les rues qui envahissaient les rues de Guadalajara. Les gens ont dit là il y a peut-être un problème climatique. Bon allez, on revient sur notre revue de presse. Dans la dépêche, les pouvoirs publics misent sur les citoyens pour réduire les cambriolages, le voisinage, quoi, en fait.
Tout à fait.
Vigilant.
Le journal parle du cambriolage comme un fléau dont la préfecture et les services de police se refusent à donner les chiffres réels. Et interrogé, le patron des policiers nationaux de la région de Toulouse, Nelson Bouard, défend lui la participation citoyenne. En clair, un habitant de votre quartier devient citoyen référent et fait remonter des informations à un policier de son commissariat de quartier. Les policiers l'affirment, la vigilance des voisins est très efficace. Soit quand le vol est constaté en direct, il faut alors appeler le 17, soit quand il remarque un détail inhabituel, exemple des volets forcés, des grillages abîmés, véhicules suspects, le dispositif des voisins vigilants est déjà en place à Tournefeuille ou à Blagnac et c'est très efficace. C'est en phase maintenant de développement à Toulouse. Alors, pour être tranquille cet été, faites confiance à votre voisin, tout simplement.
Oui, surtout si vous n'en connaissez pas, parce que évidemment, autrement, ça se fait à l'amiable. Moi, je sais que mes voisins surveillent volontairement ma maison quand je suis absent. Je ne suis pas souvent absent, surtout avec l'été sur Sud Radio. Je vais être beaucoup chez moi. Mais c'est très utile. Et il faut que ça progresse, parce que chacun doit pouvoir se porter garant un petit peu de ses voisins, un peu surveiller. C'est de la bonne entente aussi.
Tout à fait.
Allez, un peu plus léger, direction la Côte d'Or en Bourgogne. Il existe désormais des ruches connectées pour sauver les abeilles. Ça, c'est une bonne initiative, ça.
Eh bien oui, c'est une information du quotidien Le Bien Public. Ces fameuses ruches 2.0, eh bien, elles ont été inaugurées hier par SNCF Réseau et l'Association pour le développement de l'apiculture de Bourgogne-Franche-Comté. Et l'objectif de cette technologie, c'est de permettre aux apiculteurs régionaux une meilleure connaissance du fonctionnement des colonies d'abeilles, un suivi en direct de la production des ruches et une meilleure réactivité sur les mesures à prendre en cas de coup dur. À terme, ça devient un véritable outil d'amélioration des pratiques apicoles et c'est un plus pour les apiculteurs qui voient la population de leur ruche diminuer d'année en année. Et vous le savez sûrement, Vincent, mais la région Bourgogne-Franche-Comté, eh bien, c'est la 6e région apicole de France.
Non, ça, je savais pas. Je connaissais pas le classement, mais je savais que c'était important. Quoi ? Comment ? Le classement de la ruche ? Non, mais c'est très important. Il faut sauver nos abeilles. Nos abeilles, elles nous nourrissent un petit peu, mais surtout, elles protègent notre agriculture en permettant la reproduction, hein, parce que ce sont des fécondatrices de nos plantes. Voilà.
Et c'est génial, parce qu'on va parler d'agriculture tout à l'heure.
On parlera d'agriculture, effectivement, tout à l'heure, puisque la grande question que l'on pose, que l'on se pose, c'est quelles conséquences de la canicule sur l'agriculture. Si d'ailleurs vous avez des questions à poser, n'hésitez pas au standard, au 0826 300 300. On y répondra en direct avec des spécialistes. Mais tout de suite, parce que j'aime bien en fin de revue de presse, trouver une info et aller directement sur le terrain, nous allons partir du côté de Toulouse, parce qu'il y a une initiative assez rigolote. À Toulouse, la ville a décidé de, on pourrait dire, climatiser les rues, en quelque sorte, hein, Marine, c'est ça ?
Ils sont forts, ces Toulousains.
Ils sont forts, les Toulousains, bien sûr qu'ils sont forts. Et on va avoir en ligne Éric Le Sueur, le PDG de 2EI. Bonjour, monsieur Le Sueur.
Bonjour.
Alors, vous avez eu une idée géniale avec votre société, c'est incroyable d'ailleurs, c'est de climatiser les rues de nos villes par le sol, par les pavés.
Oui, alors je ne sais pas si c'est rigolo ou génial, mais en tout cas, le principe, c'est de rafraîchir les sols en utilisant le principe de l'évaporation de l'eau. C'est un peu ce que faisaient nos grands-mères autrefois, en jetant un baquet d'eau le soir sur la terrasse ou sur le balcon.
Ah ben c'est ce que je fais, moi, tous les soirs, en cas de canicule, un coup de jet d'eau sur la terrasse. Voilà.
Et ben le principe est le même, sauf que là, on essaye de trouver une solution qui s'intègre dans la voirie, dans les espaces urbains, et qui consomme le moins possible d'eau. Donc là, l'idée, c'est d'amener de l'eau sous des pavés qui sont poreux et qui vont absorber progressivement cette eau.
C'est ce que j'allais dire, parce que quand vous parliez tout à l'heure de d'évaporation, évidemment, il faut de la porosité. C'est pas nos pavés de granit qui peuvent permettre ça.
Non, il faut apporter par un goutte à goutte de l'eau sous des pavés qui sont en matériaux poreux. Alors en l'occurrence à Toulouse, ce sont des pavés en céramique qu'on a fait venir du Japon, parce que c'est une méthode qui est assez traditionnelle au Japon.
Du raku, une sorte de grès, quoi.
Oui, voilà. Donc, évidemment, on ne va pas développer des solutions en France à partir de matériaux japonais.
Bien sûr,
ça
serait
pas très bon pour le.
Ça a été adapté chez nous, alors.
Voilà, et on le fait maintenant aujourd'hui avec des pavés qui sont construits à partir de coquilles Saint-Jacques broyées qu'on réintègre dans du mortier. Donc oui, on fait une espèce de schéma global d'économie circulaire. On récupère des matériaux naturels pour refroidir, pour climatiser, comme vous dites.
Les rues.
Nos rues sont en limitant au maximum la consommation d'énergie.
Et ça fonctionne ? Ça fonctionne à Toulouse ? De combien est-ce que ça peut faire baisser la température en cas de canicule ?
Alors, il y a deux mesures que l'on fait. Il y a la température du sol, déjà,
bien
qui
sûr.
Est le premier élément.
Ouais.
À Toulouse, c'est un démonstrateur qu'on a mis en place, donc un pilote pour où on teste le fonctionnement. On le déclenche à partir de 30 degrés de température du sol. Et le mécanisme, qui est donc des cycles réguliers de goutte à goutte et d'évaporation, fait baisser la température de largement 10 à 15 degrés entre le sol non refroidi et le sol refroidi.
10 à 15 degrés, mais c'est considérable.
L'évaporation de l'eau, ça consomme beaucoup d'énergie et de chaleur, c'est d'ailleurs la base du climat.
Mais en revanche, excusez-moi, mais ça consomme de l'eau aussi, et c'est peut-être un problème, parce que, ou est-ce que c'est en circuit fermé ?
Alors, ce n'est pas un circuit fermé puisque ça s'évapore, mais l'eau à Toulouse que nous utilisons, c'est de l'eau de pluie que nous récupérons dans la rue et à côté, qu'on stocke dans des réservoirs et qu'on utilise pour cet usage-là. Vous avez raison qu'on a tout intérêt à ne pas utiliser l'eau potable pour cette application, mais il y a beaucoup d'eau disponible dans les villes. Il y a parfois de l'eau brute, comme c'est-à-dire l'eau directement qu'on peut pomper dans les fleuves. hein, comme à Paris, par exemple. Mais c'est aussi là les eaux pluviales que l'on récupère. Ça peut être aussi les eaux qui sortent des stations d'épuration et qui ont été, en quelque sorte, nettoyées avant d'être remises au milieu naturel. Ces eaux-là, on peut les récupérer pour cette application. Donc, on a beaucoup de possibilités d'utiliser des eaux disponibles et qui ne sont pas des eaux qui sortent du réseau d'eau potable.
Et je rappelle que vous savez de quoi vous parlez, puisque vous êtes le PDG de 2EI, qui est une filiale de Veolia. Donc, l'eau, vous connaissez, on peut dire. Hein.
Voilà.
Ok, merci beaucoup, monsieur Le Sueur. Je trouve que c'est une manière très écologique de rafraîchir plutôt que de mettre des climatiseurs partout dans les rues de nos villes.
Absolument.
On suit cette opération avec grand intérêt. À bientôt, j'espère.
Merci.
Allez, on se retrouve dans une minute ou deux pour parler enfin de cette canicule et des effets sur l'agriculture. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire au 0826 300 300. On est de retour tout de suite.
Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
Allez, de retour sur nos routes de l'été après la revue de presse de Marine Van Tournout. Je prononce mieux, de mieux en mieux. Hein.
Ça va s'améliorer
avec l'été, vous allez voir. Vous le savez, dans cette première heure d'émission, nous avons donné la parole aux régions et souvent nous répondons à vos questions. On répond aux questions parce qu'il y a des questions qui sont propres aux vacances et à la période de l'été, comme celle-ci par exemple. Quelles conséquences a eu la canicule et aura, parce que c'est, à mon avis, c'est pas terminé hein, avec le réchauffement climatique. Malheureusement, quelles conséquences a la canicule sur l'agriculture? Alors pourquoi cette question? Parce que je trouve que dans les informations, on traite beaucoup des urbains, on traite beaucoup du malaise de nos populations, on traite beaucoup de choses qui n'ont pas trait directement à la nature. Et la première victime, à mon sens, et on va le savoir tout de suite, de la canicule, c'est l'agriculture française, le végétal et l'animal. Pour en parler ce matin, je reçois autour de cette table Olivier Daugé, qui est élu référent pour les questions climatiques et président de la Chambre d'agriculture de l'Aisne. Bonjour, monsieur Daugé.
Bonjour. Des Hauts-de-France,
oui.
Préciser.
Ah oui, alors de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France.
Des Hauts-de-France, oui.
Ah, oui. Ah, parce que c'est regroupé les chambres d'agriculture aussi
c'est
à l'échelon régional.
C'est en train de se regrouper, oui.
Ah, bah, ça, travailler c'est très intéressant.
Plus en plus, travailler ensemble.
Car l'Aisne, c'est la Picardie. Et la Picardie est rattachée au Nord-Pas-de-Calais pour former les grands Hauts-de-France. Très bien, monsieur, j'ai cette précision. Et nous aurons au téléphone Olivier Allemand, conseiller auprès du ministre de l'Agriculture. Bonjour, Olivier.
Bonjour Vincent, bonjour Marine.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, Olivier. Et j'en profite au passage pour vous remercier, Olivier, parce que je trouve que le fauteuil a été bien préservé depuis l'an dernier, puisque c'est vous qui étiez à cette place sur les routes de l'été à ce même horaire. C'est vous qui teniez ce fauteuil. Alors merci, vous teniez la baraque.
Je suis très très heureux de vous le transmettre, Vincent, parce qu'effectivement, les routes, les territoires, les itinéraires bis de notre beau pays sont en de très bonnes mains avec vous durant
cette C'est gentil. C'est vrai qu'on partage ça. Mais en tout cas, vous avez très bien rangé le studio. Hein. Depuis l'année dernière, ça n'avait pas bougé. Voilà. Allez, on revient tout de suite à notre débat. Je vous rappelle, vous pouvez appeler au 0826 330 300 si vous avez des questions à poser qui ont trait aux conséquences de la canicule, de la chaleur et du soleil. Hein, on va dire, on va élargir sur l'agriculture. On entame tout de suite le débat. Alors d'abord, Monsieur Daugé, lorsqu'on parle des conséquences, elles sont évidentes sur la... on va dire le stress hydrique, hein, notamment, et la chaleur sur les plantes. Hein, c'est la première idée qu'on en a.
Oui, tout à fait. Vous disiez conséquences sur l'agriculture, c'est évident, mais conséquences sur la nature au sens large. C'est-à-dire que l'agriculture, la forêt, l'ensemble de la nature, la faune, la flore, la biodiversité. On parle beaucoup de biodiversité, mais l'homme souffre quand il fait 40 degrés. La biodiversité souffre particulièrement. Donc c'est un vrai défi. C'est le défi des COP quoi, autour du climat, de prendre en compte non seulement d'aller vers moins de réchauffement climatique, mais surtout de tenir compte des conséquences de ce réchauffement climatique que l'on vit aujourd'hui depuis 5, 7, 8 ans, tous les ans au niveau agricole. Il n'y a pas une saison normale, je dirais, au niveau agricole aujourd'hui.
Ah oui, c'est terrible.
Et du coup, avec des conséquences très importantes en termes de production, en termes de prévision. Pour les agriculteurs, je pense notamment aux éleveurs, prévoir l'alimentation des animaux et tout ça, ou même en termes de moisson qui va démarrer bientôt, mais avec des conséquences sans doute non négligeables du coup de choc, quoi, gros coup de choc que nous en avons.
D'autant plus terrible qu'on a eu une sorte de gros coup de froid à l'aube du printemps. Je me souviens d'avoir vu des images de torchères dans les vignes pour protéger du gel matinal. Ça, c'est évidemment les conséquences du réchauffement climatique.
C'est
cette fluctuation hallucinante.
Tout à fait. Il n'y a plus de saisons. Il n'y a plus les mêmes saisons qu'avant. C'est-à-dire que c'est décalé. C'est soit beaucoup d'eau à un moment donné. Ce n'est pas qu'on ait moins d'eau tout au long de l'année, forcément, mais c'est plus par cycle, ce genre de choses. Les apiculteurs, il y a quelques jours, ont annoncé que l'année serait très compliquée parce que, justement, il y a eu un hiver assez doux qui n'a pas permis aux abeilles d'hiberner normalement. Il y a eu le gel qui a supprimé beaucoup de pollen et ce genre de choses. Quand vous avez un coup de chaud comme la semaine dernière, cette année par exemple, les acacias, les tilleuls n'ont pas fleuri de la même façon. C'est-à-dire qu'au lieu de fleurir sur 3-4 semaines, ils n'ont fleuri que sur une semaine.
Ils sont inhibés en quelque sorte. Ils bloquent
comme tout le monde. Quand vous avez très chaud, vous rétractez sur vous-même, vous vous protégez. Les plantes, c'est pour ça qu'on parle des chaudages, on parle de plantes qui grillent. En fait, les plantes se concentrent sur le grain et fanent d'elles-mêmes. Et du coup, vous avez une durée de fleurs, une durée de pollen ou beaucoup plus courte, de cycle de vie des plantes beaucoup plus courte. D'ailleurs, c'est une façon de se protéger de la part de la plante. Quoi. Elle protège le fruit quelque part.
Alors ce matin, il y avait d'ailleurs la une du Midi Libre, je crois, Marine,
oui, tout à fait.
Sur les grains qui ont réellement grillé en Occitanie, hein, grillé sur pied, comme brûlé au chalumeau, disent les viticulteurs.
Exactement.
C'est terrifiant. C'est comme un passerillage trop mené, en quelque sorte. Non mais, c'est une méthode, évidemment, on veut que les grains mûrissent, mais là, ils n'ont même pas le temps de mûrir avant d'être mûrs et donc d'être gorgés d'eau. Ils sont grillés sur le fruit naissant.
Quand vous dépassez les 40 degrés, c'est véritablement un chalumeau. Quoi. C'est pas, vous le vivez, quoi. Les gens étaient chez eux, se protégeant comme ils pouvaient, mais vous sortiez en plein soleil. En plus, c'est 45 degrés à l'ombre. C'est que quand vous êtes au soleil, vous dépassez les 50 degrés, et ça devient véritablement un chalumeau.
Ouais,
et rien n'y résiste. Au niveau de la nature, rien n'y résiste. Que ce soit, encore une fois... la faune et la flore, rien ne résiste.
Car je rappelle qu'en dehors des records de saison, on a battu des records absolus, notamment dans le Gard. On n'avait jamais atteint plus de 45 degrés.
Plus dans la région sud que dans la région nord, mais on a battu des
records
absolus.
Clairement. Olivier Allemand, vous qui êtes avec nous, je suppose que comme d'habitude, vous voyagez partout en France avec le ministre de l'Agriculture, et plus en ce moment, j'imagine. Hein, vous êtes appelé partout, un peu comme les pompiers de la canicule.
Oui, mais effectivement, les conséquences du réchauffement climatique nous ont amené à la fois à être sur les conséquences de fortes intempéries qu'il y a eu il y a une quinzaine de jours dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'était les intempéries de grêle. Alors malgré effectivement des dispositifs qui peuvent exister pour protéger les cultures comme les dispositifs paragrêle, ou alors évidemment on sera dans le Gard vendredi pour répondre, dans le Gard et dans l'Hérault, pour répondre à l'urgence dont vous parliez tout à l'heure, de viticulteurs, même d'oléiculteurs qui ont tout perdu, parce qu'effectivement...
L'huile d'olive ?
Les
oliviers ont grillé aussi.
Les oliviers ont grillé aussi. Alors derrière ça, c'est évidemment qu'est-ce qu'on fait ? Il y a effectivement des mesures d'urgence qui sont celles...
c'est quoi les mesures d'urgence, justement ?
Les mesures d'urgence pour aider les agriculteurs, c'est effectivement... Elles sont de plusieurs types, mais c'est effectivement de voir d'abord si ça répond à une catastrophe, aux notions et aux critères d'une catastrophe naturelle. Mais quoi qu'il en soit, on a un système assurantiel qui s'appelle les calamités agricoles, où à partir du moment où les agriculteurs perdent leur outil de production, c'est-à-dire leurs oliviers, leur cep de vigne, en fait, il y a un système assurantiel qui permet effectivement de maintenir qui compense la perte de chiffre d'affaires, on va dire, de ces agriculteurs. Mais effectivement, la recrudescence de ce nombre d'événements climatiques nous incite justement à revoir complètement l'assurance agricole aujourd'hui, parce que le secteur agricole est un des rares secteurs où l'assurance n'est pas obligatoire. Quand vous avez une autre activité économique en France, vous avez obligation de vous assurer. Eh bien, dans le secteur agricole, c'est pas aujourd'hui encore le cas. Donc effectivement, on est
C'est laissé au libre choix de chacun.
C'est laissé au libre choix de chacun parce que elle est souvent trop chère et donc du coup elle n'est pas accessible pour des agriculteurs qui gagnent moyennement donc leur vie. Et donc du coup l'idée c'est de la généraliser à l'ensemble des agriculteurs, parce qu'aujourd'hui il n'y a que 30% d'agriculteurs qui s'assurent, pour justement que les cotisations soient moins fortes.
Oui, voilà. Et pourtant la solidarité est organisée quand même entre les agriculteurs, je suppose.
Oui, la solidarité est organisée, mais il n'empêche que on a vu aussi un certain nombre de personnes profiter de ces épisodes-là pour pouvoir
pour pouvoir essayer de vendre notamment leur fourrage oui. beaucoup plus cher, parce qu'effectivement une des conséquences du réchauffement climatique
c'est aussi l'alimentation de l'élevage.
Exactement.
On va y revenir tout de suite, Olivier, hein, car on va faire une petite pause. On se pose la question ce matin des conséquences évidemment dramatiques de la canicule sur l'agriculture. Vos questions au 0826 300 300, s'il y en a. On se retrouve tout de suite.
Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
Allez, en route pour notre question-réponse sur les sujets qui vous obsèdent pendant l'été, en tout cas qui vous préoccupent, et ce matin, il est préoccupant, puisque ce sujet, c'est la canicule, les effets de la canicule sur l'agriculture, avec nous en studio, Olivier Dauger, qui est le président de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, et au téléphone, Olivier Allemand, conseiller auprès du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Et alors, ça fait deux Olivier, et les Olivier, ils ont souffert hein, avec la canicule. On en parlait à l'instant, en disant que dans la région Occitanie, ils ont carrément grillé sur pied, les olives ont grillé sur pied, c'est ce que nous disait Olivier Allemand. Eh bien justement, j'ai un agriculteur en ligne avec nous qui nous appelle des Landes, je crois. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quel est votre prénom, s'il vous plaît?
Thierry.
Bonjour Thierry. Alors vous êtes donc agriculteur dans les Landes?
Oui, tout à fait. Je suis agriculteur dans les Landes, je suis agriculteur bio.
Oui, oui. Et qu'est-ce que vous faites, plutôt du végétal ou de l'élevage, vous?
Végétal. J'ai un hectare de vigne donc bio, et je fais du raisin de table.
Oui. Quelle variété, si je peux me permettre?
Du foin, de l'exalta.
D'accord. Ok.
Voilà.
Et du foin, et en ce moment, c'est dur de faire du foin. Hein.
Voilà. Ouais. Oui, tout à fait.
Vous-même avez été touché?
Pardon?
Vous-même avez été touché par les intempéries récemment?
Non, du tout.
Non. Et la canicule un peu quand même. Oui, la chaleur sûrement.
Du tout non plus.
Ah bah alors vous êtes un rescapé de la canicule, c'est chouette ça.
Tout à fait, parce que bon, dans les Landes, on a eu chaud, mais on a connu d'autres
vicissitudes, oui.
Voilà, tout à fait. Et il a fait chaud dans certaines régions plus que dans d'autres.
Vous vouliez poser une question à nos intervenants?
Alors moi, je voudrais profiter de votre émission pour poser une question à Monsieur Allemand, qui est proche du ministre de l'Agriculture, qui nous avait promis que toutes les aides bio seraient réglées au début du printemps. Alors moi, je suis agriculteur bio.
Oui.
Nous sommes accompagnés, parce que je suis en conversion, nous sommes accompagnés pendant 5 ans.
Oui.
Et il est en train de se produire une catastrophe qui, à mon avis, est plus importante que la canicule.
Bah, surtout chez vous, si vous n'avez pas été touché, oui.
Voilà, c'est que on nous promet des aides bio, mais on nous les paie jamais, quoi.
Oui, je vous remercie, Thierry, mais c'est pas du tout le sujet de l'émission ce matin. Hein. Moi, je vous propose une réponse rapide d'Olivier Allemand, et on va revenir à notre débat, et on va parler du bio contre le locavore pendant les vacances, et je vous rappellerai. Je vous promets. Olivier Allemand, avez entendu.
Pour être très clair sur ce sujet des aides bio, il y a 88% des aides bio de 2016 qui ont été versées. Il nous reste 12% sur les aides de 2017. Et le calendrier de 2018, donc les aides de 2018 qui sont versées en 2019, est un calendrier qui est normal, puisqu'il y a plus de 38% des aides qui ont déjà été versées. Alors c'est vrai, quand on dit ça, il y a un certain nombre de retards sur un certain nombre de dossiers, mais il n'empêche qu'on entend plus les 2%, et à juste titre, de d'agriculteurs bio qui n'ont pas touché leurs aides, plutôt que les 98 autres qui l'ont touché.
Bah oui, oui. Ceux qui les ont touchés, ils râlent pas, c'est sûr, en général.
Mais il y a eu clairement un retard de paiement, une défaillance de l'État sur ce retard de paiement-là, qui est lié à un système informatique qu'il a fallu faire évoluer. Voilà.
Voilà. Et peut-être qu'il y a à un moment donné, les pompiers vont là où c'est très chaud, et en ce moment, c'est plutôt le sujet de la canicule qui obsède. Thierry, je vous dis, laissez votre numéro de téléphone au standard. Dès que je refais le thème bio, et il va intervenir hein, dans les routes de l'été, ne vous inquiétez pas, on vous rappelle. Ça marche comme ça?
C'est très bien, je vous remercie.
Ouais, bonne journée dans les Landes, et puis on va bientôt visiter d'ailleurs votre beau coin de France avec l'émission. Allez, on revient, Olivier Dauger, sur notre sujet de la canicule. Alors, cette canicule, souvent on pense végétale, mais il y a évidemment un problème animal. Hein, pour tous les éleveurs, quel que soit le secteur, évidemment, la canicule, c'est un réel problème.
C'est un réel problème, surtout avec la volonté en France, et bonne volonté hein, d'ailleurs du gouvernement sur ce sujet-là, d'aller vers un élevage plus proche de l'air, plus proche des prairies, plus proche d'une consommation liée à l'exploitation. Donc forcément, quand vous avez une année comme ça, vous pouvez perdre 50% de votre production. Mmh. C'est compliqué. Il y a un certain nombre de choses à mettre en place, c'est ce que je voulais dire. L'assurance, c'est très bien. Le pompier, c'est très bien. Il faut le faire parce qu'on est dans une situation humaine catastrophique. Oui. Il faut le faire, mais il faut aussi anticiper. Il faut anticiper. Le gouvernement l'a fait au niveau fiscalité en permettant de, fiscalement de pouvoir stocker un peu de fourrage en plus ou ce genre de choses. Oui. Ça ne suffit pas. On voit très bien que dans la Drôme, les gens qui avaient des filets de bonne qualité ont été bien mieux protégés que les gens qui n'avaient pas de filets. Il faut vraiment anticiper parce qu'on on est sur une situation où de toute façon, les cas extrêmes causeront des dégâts. Les 46 degrés sur des vignes, droit, c'est improtégeable. Par contre, il y a un certain nombre de choses à mettre en place. Et j'oserais dire aussi, on veut monter en gamme en France, l'élevage est typique, c'est-à-dire qu'on de l'élevage à l'herbe et ainsi de suite. Je crois qu'il y a un vrai débat aujourd'hui. On est pompiers, mais il faut voir aussi la cause du réchauffement climatique. Et là, je ne peux pas me permettre de ne pas dire que tous les accords internationaux signés par l'Europe en ce moment avec le Brésil, avec le Canada et tout ça, quand vous avez 100 000 tonnes de bovins, 180 000 tonnes de volailles, 180 000 tonnes de sucre,
d'Amérique du Sud,
produits dans des conditions qui sont interdites chez nous, parce que c'est clair, ça affaiblit aussi les agriculteurs. J'entendais Olivier Allemand dire que les agriculteurs ont des revenus pas très élevés. Il a tout à fait raison, il connaît bien la situation. Si déjà les agriculteurs avaient des revenus plus élevés, pouvaient fiscalement, par des systèmes de provision fiscale, mettre un petit peu d'argent de côté pour l'année de la crise, utiliser aussi la solidarité nationale et les assurances, mais s'auto-alimenter financièrement. Vous voyez, il y a tout un travail de fond, parce que si à chaque fois, c'est un peu l'incendie, voilà, on sort pour aller éteindre l'incendie, c'est bien, mais il faut aussi prendre toutes les mesures derrière pour permettre à l'agriculture. L'agriculture, la personne de Toulouse, c'est très intéressant ce qu'il dit. Déjà, je remarque qu'il récupère
des landes.
Non, de Toulouse avant, que vous avez vu dans l'émission avant, qui rafraîchit.
Par les pavés, oui.
Il peut récupérer. Le premier élément contre le réchauffement climatique, c'est le sol. C'est les sols couverts, c'est les prairies, c'est les forêts. Donc il faut impérativement mettre des systèmes.
Déjà,
c'est
l'ombre.
C'est aussi d'avoir des sols qui vivent, parce que quand vous avez de l'humidité dans un sol ou des plantes dans un sol, ça rafraîchit le sol. Un sol en béton ou un sol en herbe, c'est pas la même température. Donc c'est tous ces éléments-là, et là il y a un vrai travail de fond, tout ça. Mais derrière, encore une fois, il faut impérativement que les accords commerciaux signés dans tous les pays du monde respectent le climat. Et aujourd'hui, ils ne le respectent pas, ils autorisent des pays à déforester et ils nous mettent, nous, en difficulté.
Olivier Allemand, vous l'avez bien compris, ça tire toujours un petit peu vers le politique, c'est normal, hein, dès qu'on parle d'agriculture en France. Hein.
Bien sûr. De toute façon, l'agriculture est viscéralement associée à nos terroirs et à nos territoires. Pour vous répondre sur les différents points, certes, il faut une réponse immédiate, c'est ce qu'on a fait justement en mettant en œuvre la clause de force majeure pour justement permettre aux éleveurs de faucher l'herbe avant qu'elle crame, pour pouvoir là aussi faire en sorte qu'on puisse stocker.
Avancer le calendrier en quelque sorte.
Clairement, ça a été le cas là dans six régions, dans le centre de Loire, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et en région PACA. Mais effectivement, ce sont des réponses, j'allais dire, immédiates. Après, il faut des réponses d'anticipation. Alors c'est vrai, vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire de l'épargne de précaution pour justement garder de l'argent en cas de coupure?
Quand on n'a déjà pas de sous, c'est difficile. Hein.
Oui, c'est difficile, mais c'est quand même possible fiscalement depuis cette année. Là aussi, il y a une disposition fiscale où on peut mettre jusqu'à 150 000 euros de côté en épargne de précaution et cette épargne de précaution est non taxable. Après, effectivement, il faut repenser les systèmes agricoles, et c'est tout l'enjeu de la transition agroécologique qui doit intégrer justement aussi des nouvelles techniques agraires, comme effectivement les techniques sous couvert végétal, pour pouvoir là aussi anticiper un peu mieux ce réchauffement climatique. Et un petit mot pour répondre sur l'accord du Mercosur, parce que on est bien entendu d'accord sur l'analyse du président de la Chambre, qui est de dire on ne peut pas lutter et accepter d'importer dans notre pays des produits qui ne respectent pas les mêmes engagements climatiques et les mêmes normes. Les mêmes normes, les mêmes standards européens et les mêmes respects de l'accord de Paris. Aujourd'hui, l'accord du Mercosur, il a été proposé par la Commission européenne, mais il n'est surtout pas ratifié par la France pour l'instant. Et donc on entre dans une phase d'analyse pour justement vérifier que ça respecte nos standards européens.
Ça veut dire que cet accord, il va être amendé, quoi. Il y a de la négo dans l'air.
Ah ben ça veut dire qu'on est parti pour des mois de négociation.
Oui, oui, bien entendu. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu à notre débat sur la canicule? Juste avant, il nous reste une minute. Je sais que par exemple, je voulais parler du bien-être animal, hein, parce que nos animaux d'élevage, je sais qu'il y a eu une interdiction des transports d'animaux vivants pendant la canicule, mais ça s'est déjà fait, ça. Enfin, je veux dire, c'est pas une nouveauté.
Oui, c'est pas une nouveauté, mais il faut quand même donner l'ordre à l'ensemble des préfectures et à l'ensemble des agents du service de l'État de ne pas autoriser, parce qu'ils doivent l'autoriser, de ne pas signer l'accord, en tout cas, de ces transports d'animaux quand la température dépasse 30 degrés pour des trajets de plus de 8 heures. C'est ce qu'on a fait jeudi matin. Alors, jusqu'à la fin de l'épisode caniculaire, c'est-à-dire qu'il y a encore des départements qui sont concernés dans le sud-est, mais ça a été levé depuis sur toute la façade ouest, mais on n'est pas à l'abri d'un retour de ce genre de dispositif d'ici la fin de la semaine, parce qu'apparemment les températures remontent.
Et puis évidemment dans chaque métier, je dirais, de l'élevage, il y a des particularismes. Moi, je pense par exemple aux éleveurs de poulets, hein, qui le font sur parcours. Là, il semblerait logique, bien que le parcours soit un signe de qualité, de les faire rentrer plutôt à l'ombre sous des hangars.
Non mais clairement, mais c'est comme pour nous, hein. Chaque éleveur doit s'assurer que les animaux sont bien hydratés pour résister aux pics de chaleur. Alors évidemment, on l'a conseillé
de même si le cahier des charges de l'appellation ou du signe de qualité le prévoit autrement. Hein, c'est-à-dire ça prime sur les cahiers des charges habituels.
Oui, le bien-être animal est prioritaire.
Voilà, c'est ça, la priorité du bien-être animal dans notre élevage. Bon, écoutez, je vous remercie, hein, d'être intervenu, Olivier. Je vous souhaite un bel été, je pense qu'il va être un peu studieux. Hein.
Oui, il va être studieux, mais écoutez, c'est là aussi un plaisir de pouvoir défendre les agriculteurs.
Ben, bien sûr. Merci Olivier Daugier, président de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, d'être venu nous évoquer ce problème. Parce que c'est pas parce que c'est les Hauts-de-France qu'il fait pas chaud. Hein. Et il faut le rappeler, hein, parce qu'on parle beaucoup du midi. Mais là, vous avez souffert, et notamment en Champagne avec les raisins, par exemple. Donc, dans cette grande région, puisque l'Aisne, hein, il y a un peu de la Champagne, hein, il y a un peu du terroir champenois.
Exactement. Hein.
Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On va tout de suite se retrouver dans une seconde pour parler un peu culture avec Marine.
Hein, on va se rafraîchir un peu.
On va se rafraîchir et puis vous appelez, hein, si vous avez des questions à poser, 0826 300 300. On y répond, vos questions d'été. Allez, à tout de suite.
Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
Les routes de l'été qui vont nous emmener tout à l'heure, dans une demi-heure, du côté de la côte basque, où on se baladera entre montagne et mer, entre montagne et océan, hein, parce que le Pays basque, dès qu'on est dans les pays, ça monte très vite. Et on parlera cuisine, gastronomie, tourisme, les meilleurs plans du petit futé, parce qu'il y en a, hein, il en a, notre Stéphane. Mais tiens, j'ai un truc super pour vous. Vendredi, je vais vous faire gagner quelque chose de formidable, puisque Sud Radio se déplace au Futuroscope, hein, l'émission Les Routes de l'été. On y sera le 19 juillet, hein, en direct de là-bas. Et si vous voulez nous accompagner au Futuroscope, hein, en famille, c'est chouette ça. 4 places à gagner, 2 personnes adultes, 2 enfants, avec l'hébergement directement là-bas à Poitiers, au Futuroscope. Je vous dis pas encore comment faire, ça sera très simple, hein, il suffira d'appeler, mais on joue ensemble vendredi. Et il y aura donc 4 places pour une famille à gagner au Futuroscope. On se retrouve d'ici là pour en parler tous les jours, si ça vous tente, quoi. Hein. Moi, je trouve que c'est un endroit absolument magnifique. D'ailleurs, on vous le fera partager le 19 juillet. D'ici là, on va s'occuper de la revue culturelle de Marine Van Tournout, le sac de plage de Marine. Moi, j'adore fouiller dans son sac de plage.
Sud Radio, les routes de l'été, mon sac de plage.
Alors, dans ton sac de plage, Marine, qu'est-ce que tu as trouvé ce matin?
Eh bien, festival ou en couleur, le Cognac Blues Passion, c'est en Charente que je vous emmène aujourd'hui.
Ah, génial!
Et oui, cette 26e édition débutera jeudi à Jarnac et se poursuivra jusque lundi dans le magnifique jardin public classé de Cognac. Attention, parce que la soirée de jeudi est déjà complète, hein, donc ça a du succès.
Aïe, 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 aïe.
Et la journée, il y a énormément de découvertes dans dans tous les registres, blues, rock, pop, voire techno. Le soir, il y aura entre autres des légendes, Bernard Lavillier, Véronique Sanson, je ne vous dis pas tout, car pour ça, nous avons en ligne Michel Roland, créateur et organisateur du festival.
Michel Roland !
Voilà, mon petit doigt me dit que vous le connaissez bien,
mais
Vincent.
Oui, bonjour Michel.
Bonjour.
Michel Roland, je l'ai déjà reçu à Midi en France sur France 3 quand on était à Cognac, c'est ça, hein ?
C'est vrai.
Et on avait déjà évoqué ce beau festival, le Blues Cognac Passion. Alors, Michel Roland, il est tombé dans le blues il y a un bout de temps déjà. Hein.
Un quart de siècle.
C'est ça.
Mais beaucoup plus.
On peut tomber dans le blues comme on peut tomber amoureux, quoi. Hein. Mais d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, non, Michel ?
Bah oui, puis comme je tombe amoureux très régulièrement.
Ah bah voilà.
Non, je rigole.
Ah bah voilà. Ah bah dites donc, je suis content pour Madame Roland. Alors, ce blues festival, il est maintenant bien ancré, il fait bien partie de la culture locale hein, à Cognac.
Oui, parce que ça fait plus de 26 ans qu'on travaille autour de ces musiques et qu'on les présente sous toutes ces filiations et toutes ces coutures. Il a vraiment sa place aujourd'hui sur le territoire même cognacé.
Alors, il faut dire que le blues, c'est à l'origine de pas mal de formes musicales, notamment le rock, le rock'n'roll. C'est assez éclectique, on va dire, le Blues Festival.
Oui, et puis c'est l'évolution naturelle. À Cognac, on a accueilli les plus grands, B.B. King, Joe Cocker, Junior Wells, Buddy Guy. Aujourd'hui, tous ces porteurs de ces musiques ont disparu malheureusement et ont laissé des traces et ont laissé des musiciens qui ont bien digéré toutes ces racines et qui font leur propre blues à eux. Et effectivement, ça part sur la pop, le rock, le folk et tous ces courants qui sont issus de cette musique et ceux pour le plus grand bonheur de tout le monde.
Et comme par exemple, quels sont les grands noms du blues qui sont passés par Cognac depuis le début du festival ?
Alors il y en a beaucoup, j'en ai cité 4-5, on peut dire Buddy Guy, B.B. King, Joe Cocker, Ray Charles.
Joe Cocker est passé à Cognac ?
Ray Charles aussi.
Mais Joe Cocker particulièrement, il a été attiré par quoi à Cognac ?
Je dirais par la notoriété de l'événement.
Oui, c'est gentil. Non, mais je me doute qu'il a dû apprécier aussi l'eau de vie de la région, hein, avec modération pour nous, mais peut-être pas pour lui.
Pour tout vous dire, il a été sage comme une image.
Ah, ça me plaît. Ça me plaît. Qu'on balance pas sur Joe Cocker, qui est quand même un énorme, énorme, énorme artiste. Alors, justement, est-ce qu'il y a une connivence ? Est-ce que vous en profitez lorsque les artistes viennent sur le festival pour leur faire découvrir l'eau de vie, le cognac ? Est-ce que les grandes maisons s'ouvrent à eux ? Est-ce qu'il y a un peu de masterclass, d'initiation pour ceux que ça intéresse ?
Oui, il y a tous ces projets, mais c'est surtout qu'ils sont demandeurs. En fait, ils connaissent Cognac, ils connaissent pas la ville. Hein. Maintenant, ils commencent à connaître l'événement lui-même, mais Cognac, la ville, ça leur parle pas. Par contre, le produit...
Évidemment, quand on a un emblème comme ça, attaché au nom d'une ville, oui, c'est moins la naissance de François 1er que le...
Oui, voilà. Et donc,
que l'autre vie, oui.
Et donc, oui, effectivement, on a une jolie connivence avec toutes nos maisons et ce fameux produit, qui est le Cognac, d'ailleurs. Et oui, effectivement, on fait des masterclass, on leur fait découvrir le patrimoine. C'est pas pour rien qu'il y a des scènes qui sont adossées dans des lieux un peu atypiques, puisqu'il y a une scène qui s'appelle Groove au Château et qui est dans la salle des gardes du Château François 1er,
ouais,
qui est aussi une maison de négoce. Il y a une très très belle scène vidéo piano dans la plus vieille cour pavée de la maison Martel. Donc,
qui verra jouer qui cette année par exemple ?
Alors, par exemple, jouera Adam Nas, jouera Sarah McCoy, Tom Odell. Ouais. Voilà, donc des artistes talentueux, aussi différents les uns que les autres.
Et vous êtes un peu des découvreurs de talents aussi ? Vous faites la place aux jeunes ?
Ah oui.
Parce que le blues, ça fait un petit peu... Enfin, il y a un côté un peu suranné, hein, quand même. C'est pas la dernière forme musicale que l'on ait sur la scène musicale. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent au blues ?
En tant que festivalier ou en tant que musicien ?
En tant que musicien,
il y a beaucoup de jeunes. Oui, il y a beaucoup de jeunes à découvrir. Bah, si je prends par exemple Adam Nas, J.S. Andara, oui, il y a tous les jours, il y a des artistes qui sont des trentenaires, voire même plus jeunes, comme Isée Sauvage, comme Mister D. Oui, il y a beaucoup de jeunes artistes, alors qui font pas forcément le blues d'il y a un siècle, mais qui font leur propre musique et qui sont à découvrir. Et notamment, nous, on a créé un prix qui s'appelle le prix Cognac Passion, qui fait découvrir le groupe français de l'année et qu'on soutient, et qui sont plutôt des jeunes groupes.
Bon, génial. Et ça démarre quand, Marine? Ça démarre
jeudi,
pour 3 jours,
pour 5 jours. Pour
5 jours. Oh là là, vous voyez, moi, je minimise tout.
Il ne sait plus compter.
Mais non, c'est ça, je suis à côté de mes cases. Mais écoutez, j'essaierai de passer parce que comme je suis passionné de cognac et passionné de blues, normalement, ça devrait le faire.
Moi, je serais heureux de t'inviter.
Ben, merci Michel, merci beaucoup, créateur et organisateur de ce festival Blues Cognac Passion. Et on vous souhaite vraiment de la très, très, très grande musique. À bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir.
Ah là 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 là, ça fait rêver. Il faut dire que c'est un magnifique coin de France. Et on ira en Charente, d'ailleurs. On y retournera, oui. Peut-être qu'on reparlera avec Michel, parce qu'il est bien sympathique. Marine. Dans notre émission tous les matins, les blogueurs, les instagrammeurs, les youtubeurs, les influenceurs sont à l'honneur. Il faut vivre avec son temps.
C'est ça, vous êtes connecté, Vincent.
Carrément, je suis carrément connecté. Qui est-ce qu'on a ce matin avec nous? On a un blogueur qui est une blogueuse, en fait. Une instagrammeuse, c'est Chloé Delanoux qui doit être au téléphone avec nous. Bonjour Chloé.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, comment ça va? D'où est-ce que vous appelez, Chloé?
Alors moi j'appelle de Seignos dans les Landes.
Seignos-le-Penon. Seignos-le-Penon.
Oui, vous connaissez.
Ah oui, parce qu'il y a un joli golf en plus à Seignos.
Oui, c'est pas facile. Mais j'allais juste à côté.
Ah, vous êtes sur le bord du golf. C'est voilà. Bien en temps de canicule, sous les pins des Landes, avec l'herbe fraîche du golf, on souffre moins qu'ailleurs en général, et le vent de l'Atlantique. Alors on vous a demandé d'être dans l'émission ce matin. On vous met à l'honneur pour votre blog Kind of Break,
c'est ça,
une sorte de break, on dirait en
exactement,
français.
Exactement, c'est oui. Voilà.
De quoi est-ce que vous traitez dans votre blog? Racontez-nous.
Alors de beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques. En fait, l'idée c'est de donner des bonnes adresses et des jolies découvertes de la région, donc Landes et Pays Basque, à une cible hommes et femmes, locaux, touristes, de, on va dire environ 25-45 ans. Voilà, alors après, ça peut être des bonnes adresses gourmandes, des restaurants, des idées de sortie, des balades, des magasins, randonnées, beaucoup aussi d'activités en famille. Il y a beaucoup de lecteurs qui me suivent, qui ont des enfants.
Et moi, ce que j'aime bien chez vous, en plus, c'est que, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant dans l'émission, ce sont des blogs à forte identité régionale. Parce que des blogs un peu fourre-tout, des blogs un peu généralistes, oui, il y en a énormément. Voilà. Mais vous êtes vraiment axé sur votre région, Pays Basque et Landes.
Basque-Hollandais. Et je ne dépasserai pas.
Vous ne dépasserez pas les frontières du Basque-Hollandais.
Les Pyrénées. Oui. Mais le sud-ouest de la France, voilà. Donc, c'est-à-dire que les gens qui se connectent sur le site, ils savent qu'ils vont avoir d'informations que sur le sud-ouest de la France, et c'est pour ça aussi que ça marche bien, c'est très ciblé.
Oui, ça remplace un petit peu les petits almanachs régionaux où on peut avoir à la fois les adresses, les sites, puis là on a en plus les photos, un peu de pratique aussi, un peu de savoir-faire. Et je trouve que il est bien fait votre blog.
Ben voilà. Merci beaucoup.
Voilà. Redonnez l'adresse mail.
Alors le site web, c'est www.kindabreak.com.
Kindabreak, alors K-I-N-D-A comme Kinder Bueno, mais en mieux. et break comme un break, quoi. Voilà comme le tie-break.
Des sortes de pauses, voilà.
Kindabreak.com.
.com.
Génial.
www.kindabreak.com.
Eh bien, merci Chloé. Merci d'avoir été avec nous.
Et bonne journée.
On vous souhaite un bel été sur votre côte landaise. Qu'est-ce que c'est
merci
beau là-bas. Ça donne envie de faire du surf. Allez, mes amis, retour sur la route. On est toujours sur la route de l'été. Et moi, quand on parle route de l'été, j'ai évidemment envie du tube de l'été. On essaiera de vous en glisser tous les jours. Alors, rappelez-vous, 1988. Et si ça vous évoque quelque chose, appelez-moi pour en parler.
Est-ce que tu viens pour les vacances? Je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses.
de la douceur ce matin.
Oh, la douceur. C'est tout moi, ça, hein, Marine.
Un gros bisounours.
C'est ça, c'est exactement ça. Un gros nounours. Mes amis, on a en ligne avec nous une auditrice, je crois. Bonjour.
Bonjour.
Ouais, c'est Fatima qui nous appelle. Oui. D'où est-ce que vous nous appelez, Fatima?
Je vous appelle de la Genêt.
Ah, de la Genêt, le Lot-et-Garonne, oui, la région d'Agen. Quelle belle région aussi, qui a un peu souffert de la chaleur aussi ces temps-ci. Oui. Mais ça va mieux, hein, ça va mieux.
Ça va mieux.
Alors, 1988, vous pouvez nous rappeler quels sont les deux prénoms de ces garçons qui chantaient « Est-ce que tu viens pour les vacances ?»
David et Jonathan.
Ben, David et Jonathan, bien entendu. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que tout de suite, ça vous rappelle quelque chose, cette chanson?
Ah oui, c'était mon premier slow avec mon mari.
Ah, le premier slow avec votre mari.
En été, du coup?
Oui, en été.
Et c'était où? Racontez-moi, dites-moi.
Eh bien, c'était au bord de la plage, à Palavas-les-Flots.
À Palavas-les-Flots. Mais attendez, c'est trop. C'est pratiquement un roman de vacances, là, c'est génial.
Oui, c'est ça. Et alors, depuis, on est toujours ensemble.
C'est vrai? Vous vous êtes connus sur David et Jonathan?
Oui, tout à fait.
Et du coup, c'est votre chanson fétiche, alors?
C'est notre chanson fétiche.
Ça reste encore et vous la passez de temps en temps?
Oui, parce qu'on a le 45 tours, donc on a su le garder.
Ah, mais vous avez le manche-disque avec ou la petite platine tourne-disque?
Oui, tout à fait, rouge.
Oh, génial. Merci, Fatima, de nous avoir raconté ça. Écoutez, moi, ça m'émeut parce que je trouve que c'est toujours des belles histoires quand ça démarre sur un tube de l'été comme celui-là. Et là, évidemment, c'était le slow de 1988. Eh ben, écoutez, je suis content que vous soyez toujours ensemble depuis. Ça prouve que c'était un bon ciment, David et Jonathan. Bonne journée à vous, Fatima.
Bonne journée.
Bonne journée dans la Genêt.
Au revoir.
Ah, c'est assez émouvant, non?
Bah oui.
Franchement.
Que de l'amour sur Sud Radio.
Ah, mais j'adore. Voilà, le ton de l'été est bien donné. En deuxième heure, on se retrouvera du côté de la Côte Basque. Si vous voulez appeler pour nous parler un peu de votre expérience sur la Côte Basque, de vos vacances sur la Côte Basque, si vous vous y trouvez. En tout cas, on va pas manquer de Basque avec nous, des chefs, des producteurs et des gens qui aiment le Pays Basque.
Sud Radio, les routes de l'été, Vincent Ferniaud.
Voilà, moi, une route de l'été qui commence bien parce que ça me donne envie de prendre le volant, ça. Tom Petty, les Heartbreakers en 91, Learning to Fly, apprendre à voler. Alors, apprendre à voler, c'est peut-être le moment, hein, si ça vous tente, que ce soit en L-Delta, en ULM, en avion même. Hein. Les vacances, c'est souvent le moment où on commence à faire des activités qu'on connaissait pas encore. Et ce matin, on va survoler la Côte Basque ensemble, depuis Bayonne jusqu'à Hendaye, en passant par Anglette, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz. Cette deuxième heure est entièrement consacrée à la Côte Basque, puisque chaque jour, on visite une région différente. Et pendant ce temps-là, Tom Petty, lui, toujours aussi bon, il continue. Allez, on va commencer immédiatement avec, je dirais, les bons plans. Hein, les bons plans de la région, Marine. C'est important parce que tout le monde se fait son petit carnet d'adresses avant de partir en vacances.
Et oui, et c'est pour ça qu'on est là. Et puis, y a les blogueurs en première heure. On a plein de choses à vous faire découvrir cette heure-ci.
Alors, ce matin, on va partir tout de suite du côté de Bayonne avec les meilleurs plans de la région.
Sud Radio, les routes de l'été, vos meilleurs plans.
En ligne avec moi, le responsable du service promotion de l'Office de tourisme de Bayonne. Bonjour, Chabi.
Bonjour.
Comment ça va? Chabi Belin qui est avec nous.
Eh bien, ça va très bien ce matin.
Oui, j'espère. Quel temps fait-il à Bayonne?
À vrai dire, c'est pas terrible aujourd'hui. Voilà.
Ah, un petit peu couvert.
C'est un petit peu couvert, c'est un petit peu gris. Bon, ben on se remet des chaleurs comme ça, ça nous permet de bien dormir.
Et de souffler. Alors, j'avais envie de démarrer ce tour d'horizon avec vous à Bayonne, parce que Bayonne, c'est vraiment une des emblèmes de la Côte Basque. Et Bayonne, cette ville qui est magnifique d'ailleurs, on la connaît trop peu souvent, on y passe, on s'y arrête pas si souvent que ça. Et en dehors des fêtes de Bayonne, voilà.
C'est vrai que les fêtes de Bayonne, c'est un peu le grand cliché de la ville, mais c'est une, comme vous l'avez dit, c'est une ville magnifique, une ville historique qui a un patrimoine architectural, culturel de premier plan. Mais les gens s'y arrêtent de plus en plus. Voilà, on a de très beaux hôtels qui ont été refaits, on a tout ce qu'il faut pour être hébergé, et on a de plus en plus de monde qui séjourne sur Bayonne, alors sur des séjours un petit peu plus courts, mais les gens apprécient énormément cette belle ville. Ouais,
alors, Chabi, en fait, Bayonne est connue avant tout par le nom du jambon de Bayonne, hein, qui a quand même conquis le monde. Il faut savoir que c'est une chance, parce que cette ville qui est à la confluence de la Nive et de la Dour, hein, deux beaux petits fleuves qui descendent, le jambon de Bayonne, il devrait s'appeler le jambon de la Dour. Mais c'était évidemment de Bayonne qui était exporté, ce jambon qui était collecté à Bayonne.
Exactement, en fait, voilà, c'est le jambon en fait de toute la vallée de la Dour, hein, avec l'IGP, mais c'est vrai qu'il était commercialisé au départ du port de Bayonne, puisque Bayonne a avait notamment une très grosse activité portuaire commerçante, et le jambon partait à travers le monde, était vendu depuis Bayonne, voilà.
Et ouais, d'où le nom, mais ça c'est bien utile pour Bayonne à mon avis,
hein, parce que c'est un bon produit,
ça attire, bien sûr, et c'est l'objet aussi des fêtes de Bayonne, le jambon est évidemment chaque fois mis à l'honneur. Mais parlons un peu plutôt du patrimoine. Et de l'architecture et de la beauté de la ville. Pour ceux qui vont arriver au Pays Basque et qui veulent s'arrêter à Bayonne, qu'est-ce qu'ils doivent visiter ?
Eh bien, en fait, si vous voulez, Bayonne, c'est une ville historique qui est entourée de remparts. Hein. Le premier, c'était un castrum romain. Donc il y a de cela quand même un bon bout de temps. Et puis ensuite, on connaît notamment Vauban, qui a monté les remparts un peu partout en France, et notamment de magnifiques sur Bayonne. Donc le cœur historique est vraiment dans le cadre de ces remparts. Et puis après, vous allez vous balader dans le secteur sauvegardé, autour de la cathédrale, du cloître aussi, qui est somptueux. Les balades en bord de Nive, comme vous en avez parlé, voilà, la chance d'avoir une ville de confluence avec deux rivières qui se rejoignent devant la mairie de Bayonne. Donc c'est vrai qu'on a
devant la mairie,
énormément de charme.
Juste exactement. Devant la mairie.
Devant la mairie, exactement. Donc ça a beaucoup de charme. Il y a beaucoup de petits restos le long des quais de la Nive. Des choses qui sont en plus. Il y a beaucoup de choses qui ont été rénovées. Donc beaucoup de travail sur la partie urbaine. Donc énormément de visites. Il faut savoir que la ville est classée ville d'arrêt d'histoire.
Donc
on organise en fait des visites guidées toute l'année avec nos guides conférenciers, que ce soit pour des gens en individuel ou pour des petits groupes constitués qui veulent visiter la ville.
Et puis alors, évidemment, on parlait de petits restos. Vous risquez de fâcher quelqu'un si je vous demande deux trois noms de restaurants ou...
Ouais, c'est compliqué.
Pas facile pour vous, hein.
Sinon, on le fait pas, mais on le fait, voilà, en direct aux gens qui vont nous voir à l'office de tourisme en fonction de ce qu'ils recherchent. Voilà, ils nous disent, on veut tel budget, telle restauration. Et là, évidemment, on va les orienter. À la radio, faire la pub pour deux ou trois, là, je vais
vous allez vous faire écharper par tous les autres. oui, c'est sûr. En revanche, si je vous dis, par exemple, si je veux trouver du beau gâteau basque, il y a des belles pâtisseries à Bayonne.
Ouais, évidemment, on a la chance d'avoir, en fait, beaucoup d'artisans liés à la gastronomie de très grande qualité, que ce soit à Bayonne ou au Pays Basque en général, puisque la gastronomie est un point fort de la région.
Ouh là là.
Voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut pas rigoler. Donc, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir de super produits et de très bons artisans et dans le vieux Bayonne, que ça soit au niveau du jambon, du gâteau basque, mais aussi du chocolat, puisqu'il faut savoir que Bayonne est la capitale historique du chocolat en France. Donc on a la chance d'avoir de très très bons produits et les gens adorent ramener ça de chez nous.
Oui, parce que d'abord c'était un port où évidemment on pouvait aborder les clippers, enfin ceux qui rapportaient la fève de cacao, mais c'est surtout en fait le passage depuis l'Espagne au moment du retour des conquistadors du chocolat. C'était voilà la première localisation française où a été importé le cacao, hein, en fait.
Tout à fait. On a un quartier qui s'appelle le quartier Saint-Esprit, et il faut savoir qu'à l'époque, il y a plus de 400 ans, à l'époque de l'Inquisition, il y avait des populations juives qui ont été chassées d'Espagne
qui sont venues
se réfugier dans ce quartier. Et comme ils savaient, eux, à l'époque, du fait de leur voyage aux Amériques, travailler le chocolat déjà, ils sont arrivés avec ces connaissances, avec leurs produits. Évidemment, c'est un produit qui a énormément plu. Il y a eu beaucoup de chocolatiers dans Bayonne. Il en reste encore 7 en activité qui produisent le chocolat sur Bayonne. Donc, c'est vraiment un des points forts de la ville. Et on le fait découvrir toute l'année.
J'espère que le chocolat de Bayonne sera aussi connu à la fin de l'été que le jambon de Bayonne. Voilà. Qu'on ne sert pas trop du nom de la ville pour la coller au chocolat, parce qu'effectivement, ça fait de l'ombre au jambon. Alors, c'est pas la peine non plus. Voilà, du beau cochon et du beau cacao. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, et je vous parle pas du reste. Hein, évidemment, l'accueil basque qui est absolument splendide, parce que les Basques, ça chante et ça ne s'en prive pas en général. Et l'ambiance le soir dans les rues de Bayonne doit être sympa pendant tout l'été. Hein.
Ouais, c'est ça.
sympa. Voilà, parce que c'est vrai qu'on connaît beaucoup Bayonne à travers les fêtes, parce que c'est ce qui est le plus connu médiatiquement, avec une très très grosse fête avec beaucoup de monde.
Bien sûr. Mais Bayonne, c'est la fête toute l'année.
C'est une autre ambiance. Alors c'est plus cool, hein. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de clubs privés où on peut passer boire un verre, par exemple. Il y a beaucoup de beaux dégâts, de bars. Il y a une connotation espagnole très forte dans le vieux quartier de Bayonne. Donc c'est vrai que l'ambiance est quand même très agréable, notamment en été, le soir dans les vieilles rues, pour se promener, boire un verre, manger quelques tapas. C'est très bien.
Et les Basques sont joyeux et cordiaux. Voilà, toujours. Et accueillant.
Toujours.
Merci, Chabi Belin. On fera une petite étape par Bayonne quand on descendra sur la côte. Et merci d'avoir été avec nous. Marine, moi, ça m'a donné carrément envie. Hein. C'est bon premier plan pour la côte basque. Hein.
Surtout quand on parle de chocolat, vous êtes intarissable sur le sujet.
Ah bah, non, c'est parce que vous êtes belge que vous dites ça. Allez, on va passer de Chabi Belin à d'autres sortes de plans.
Sud Radio. Les routes de l'été, les meilleurs plans du Petit Futé.
Et c'est le moment de retrouver Stéphane, notre Petit Futé. Bonjour Stéphane.
Bonjour Vincent.
Alors, on aime bien les plans de Stéphane. On a fait un grand saut. On est passé des PO au PA, des Pyrénées orientales aux Pyrénées atlantiques aujourd'hui.
C'est plutôt pas mal. En plus, une belle destination. Et moi, je vais vous accompagner à Biarritz.
Biarritz. Sur... Voilà. Là, on est dans le top du 64, là.
On est sur la côte. On va profiter de ce climat. C'est vraiment que c'est agréable toute l'année. Là, on est vraiment entre falaises, plages de sable blanc, l'eau sens, c'est vrai qu'il est souvent déchaîné. D'ailleurs, c'est la côte les surfeurs. On parle de, c'est la ville californienne du sud de la France. C'est dynamique, c'est branché, mais c'est aussi historique. On a un centre historique qui est vraiment magnifique. Il y a toute l'architecture qui est vraiment très très belle.
Ah oui, on aime les maisons basques avec les colombages rouges parfois.
C'est
même.
Toujours, c'est vraiment le charme. Le palace napoléonien qui est devenu
un
hôtel de luxe. Voilà, c'est mise en colorée, vous en parlez, les boutiques de luxe aussi, c'est plutôt plein de petits cafés cachés. Donc Biarritz, on aime vraiment beaucoup.
Avec une super ambiance. Et puis alors, il y a plusieurs sites tout au long de la baie, en fait.
Oui, en fait, on va surtout aller au Rocher de la Vierge. Alors lui, il s'avance complètement dans les flots.
C'est un éperon rocheux, carrément.
Il défie l'océan complètement. Et ça, d'ailleurs, la vue sur la baie est vraiment très, très belle. Alors, selon la légende, on a ce rocher qui donne son nom à la statue de la Vierge. Hein. C'est les baleiniers qui l'avaient faite, qui avaient installé ça au sommet. Bah, ça a été pris dans une terrible tempête, ça date du 19e siècle, et en fait ils avaient vu ce port-là, ils avaient dit « Ah, c'est la lumière divine, d'où cet hommage, d'où cette Vierge qui est là ». Alors pour l'anecdote, c'est Gustave Eiffel qui a quand même fait la passerelle métallique qui relie le rocher à la côte. Alors c'est pas une grande passerelle. Hein, c'est...
Non, oui, mais c'est en même temps, c'est assez monumental, même si c'est réduit en taille. Il y avait un exploit technique à l'époque, notre Gustave, il savait faire ça. C'était son truc. Puis il y a aussi un autre endroit qui fait penser à Biarritz, c'est le phare, parce que moi je suis golfeur.
Ah, voilà.
Et il y a un très beau golf club juste à côté du phare, ce phare noir et blanc qui est splendide et qui marque évidemment le Biarritz.
On est à la pointe Saint-Martin, hein, on est quand même à 73 mètres au-dessus de la mer. Alors, il y a quand même beaucoup de marches, je ne sais pas si vous allez au golf en montant les marches ou
non, généralement on prend quand même la bagnole.
248 marches, mais la vue, si vous montez à pied, vous avez la petite récompense, magnifique vue à 360 degrés. Alors celui qui permettait, il permet de se repérer à 50 km, on le voit à 50 kilomètres depuis l'océan. Alors, pour la petite anecdote, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient peint le phare tout en noir, en fait, pour qu'il soit plus difficile à repérer en cas de débarquement.
Ah, voilà. Oui, c'est vrai que ça s'est pas fait là. Hein.
Bah, non,
on le saurait aujourd'hui. Et puis alors, évidemment, les plages. Hein, puisque vous citiez tout à l'heure la Californie française. Les surfeurs ont évidemment beaucoup participé à cette légende et c'est les plages.
4 kilomètres de plages absolument magnifiques. Il y a 6 plages, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors c'est vrai que la grande plage, c'est la plus centrale, la plus fréquentée, toute jolie. Hein, on est devant le casino Art Déco. C'est plutôt sympa, mais les petites cahutes comme ça, colorées, c'est plutôt sympathique. Sinon, la plage de la Côte Basque, ça c'est vraiment le rendez-vous des surfeurs. Une des plages préférées des Biarrotes, c'est la plage Marbella. Elle est un tout petit peu excentrée, mais c'est vrai que ce sera plus calme, un peu plus sauvage. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde quand on va à Biarritz.
En fait, ce sont ces plages hein, qui ont sûrement emporté les faveurs et le cœur de notre impératrice Eugénie, la femme de Napoléon III, qui a fait Biarritz, hein, puisqu'elle était d'origine espagnole, et que c'était un peu la croisée des chemins, pareil pour Louis XIV avec l'infante.
Absolument.
absolument, marié au Pays Basque également, à Saint-Andelus. Et donc, voilà, là, c'est absolument génial de voir que cette station, elle a un long historique. Et aujourd'hui, elle est extrêmement trendy.
Hein, elle reste complètement moderne, absolument.
Complètement moderne. Et est-ce qu'on peut citer un truc, moi, qui m'a assez saisi, c'était l'aquarium.
L'aquarium est vraiment très joli. En fait, il est situé face au Rocher de la Vierge. Hein, donc, on revient un peu sur le point de départ. C'est un des immanquables de la ville. Vraiment, on va voir les fonds marins. Il y a une cinquantaine de bassins, des méduses, des poulpes. Le bassin aux poulpes est absolument génial. Des hippocampes, 7 espèces de requins, des raies. Il y a plein de choses à voir. Alors, ils font, comme souvent dans les aquariums, le repas des requins, le repas des phoques, c'est absolument hilarant. Donc, c'est vrai que là, ils mangent les maquereaux de façon assez gloutonne. Si vous êtes avec vos enfants, vraiment, c'est le
ne
truc.
Ne les jetez pas dans l'aquarium des requins, c'est tout ce qu'on vous demande.
Ouais, voilà, vous assistez tranquillement. Sinon, il y a une belle expérience à vivre, c'est qu'on peut passer une nuit face au grand aquarium des requins.
Ah oui.
Et alors là, c'est quand même
plutôt... Il y a la nocturne.
Il y a la nocturne. Et donc ça, c'est quand même assez sensationnel. C'est un petit côté inquiétant. Alors, pour la petite histoire, en fait, en janvier, on a l'aquarium de Biarritz qui avait recueilli un bébé phoque échoué, qui avait été blessé comme ça. Puis après, ils l'ont un peu soigné, puis ils l'ont relâché dans leur milieu naturel. Et chaque année, en fait, l'aquarium a vraiment une démarche pour aider ces bébés phoques, mais aussi les tortues échouées. Donc, en plus, ils sont dans le bon sens, dans la bonne action.
Et je vous passe, évidemment, toute la restauration et les marchés et les charcuteries basques et les pâtisseries basques. Mais on va en continuer à en parler dans l'émission.
J'imagine bien.
On est super gourmands et ça nous donne faim. Merci Stéphane. On se retrouve demain pour une nouvelle destination.
À demain.
Sud Radio, les routes de l'été, Vincent Ferniaud.
Ah, il est fortiche ce Stéphane quand même. Bon, si vous n'avez pas compris qu'on est sur la côte basque ce matin dans les routes de l'été, c'est qu'il faut prendre des cotons-tiges hein, et puis se nettoyer un petit peu les oreilles. Parce qu'on parle basque pratiquement... Enfin, je parle pas basque, hein, mais on parle du Pays basque pratiquement sans accent. Allez, on se retrouve dans une seconde.
Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
Et roule toujours ici sur Sud Radio, ces routes de l'été où on visite le Pays Basque. Tiens, je vais vous faire gagner quelque chose. Ah bah c'est toujours sympa. Un guide Michelin. Moi c'est très utile dans ma voiture justement, le guide Michelin édition 2019. Alors si vous voulez gagner un guide, c'est très simple. Il faudra simplement appeler en fin d'émission hein, et nous dire de quel port nous allons parler dans une seconde. On va parler d'un sport local, comme tous les jours, hein, dans notre chronique « Ça, c'est du sport ». Dites-nous de quel sport il s'agit, puisqu'on est au Pays Basque. Vous nous le dites et vous gagnez le guide Michelin édition 2019. Voilà. Allez, on va immédiatement chausser nos chaussures de basket. On va mettre notre survêtement.
Sud Radio, les routes de l'été, ça, c'est du sport.
Alors vous le savez, tous les jours, on aime bien découvrir des sports locaux ou des initiatives locales en matière de sport ou simplement vous donner des trucs pour vous activer un petit peu. Hein, parce que le sport, ça fait partie des vacances, hein, Marine.
Ah bah oui,
hein,
hein, on pas le dit de tous les matins.
On fait toujours notre jogging, nous, avant de préparer l'émission. Hein.
Ah,
oui, c'est ça, oui. Rêve.
Tous les soirs.
C'est ça. Avec nous, au téléphone, Michel Billac. Michel Billac est l'organisateur des internationaux de Cesta Punta. Et évidemment, c'est de la pelote basque. On va parler de pelote basque. Bonjour Michel.
Bonjour Vincent.
Comment ça va ?
Tout va bien.
Du côté de Saint-Jean-de-Luz, ce matin, le temps est un peu couvert, me disaient tout à l'heure tes amis de Bayonne.
Oui. Ah, c'est les Bayonnais qui l'ont dit. Ah
ouais, les Bayonnais ont balancé. Oui, à Saint-Jean, il fait très beau, j'en étais sûr. Ah oui, les petites guerres de clochers, mais c'est de bon aloi. Michel, alors vous êtes les organisateurs, alors ancien international rugby, grand rugbyman, mais reconverti dans la pelote basque avec ses internationaux de Cesta Punta. Alors d'abord, la Cesta Punta, c'est quoi dans la pelote basque ?
Alors, c'est une des spécialités de la pelote basque. Moi, je compare la pelote basque un peu à l'athlétisme, où dedans, vous avez...
Plein de disciplines.
Plein de disciplines, et la Cesta Punta en fait partie. Voilà, donc la Cesta Punta, ben, ça se joue dans un site qui s'appelle le Rayelay. Pour info, pour ceux qui connaissent pas, c'est à l'intérieur. Ça se joue à l'intérieur sur une surface qui fait une cinquantaine de mètres de long sur une dizaine de mètres de large.
D'accord.
Voilà.
C'est quoi la différence avec un trinquet ? Parce que moi, j'entends parler parfois de
Le trinquet, il est beaucoup plus petit. Le trinquet,
voilà.
C'est la même configuration, mais deux fois plus grand.
D'accord. C'est comme un terrain de rugby par rapport à un terrain de volley.
Voilà, tout à fait, tout à fait, avec un grillage sur la partie droite, justement pour protéger, parce que faut savoir que ça se joue avec un Chistera. Alors c'est Chistera, c'est un gant de cuir et d'osier qui est confectionné entièrement à la main et qui permet donc de propulser la pelote à une vitesse qui peut atteindre 300 km.
Oula,
donc donc
et
ça va
très vite. Ça a une forme de crosse un peu, hein. Ça,
voilà, comme tout
ça.
À fait, tout un à crochet. Fait, c'est fait. Mmh. Voilà, et ce sont les internationaux, ce sont des professionnels qui autrefois jouaient aux États-Unis, là de moins en moins, parce que voilà, les joueurs sont revenus un peu au pays, ce qui nous permet de les faire jouer l'été, mais également depuis 2-3 ans, on les fait jouer tout au long de l'année avec un circuit professionnel qui se joue dans tous les rails à l'ail. Alors il n'y en a pas énormément en France,
d'accord,
il y en a 7 ou 8, mais voilà, donc ça va très très vite, et voilà, c'est composé de deux joueurs à l'avant et deux joueurs à l'arrière. Voilà, c'est des équipes de deux.
C'est donc une des disciplines de ce qu'on appelle la pelote basse plus généralement. Alors, Michel, moi j'ai eu la chance, jeune, à mobilette, de faire le tour du Pays Basque, et je me souviens que lorsqu'on passait dans les villages le soir, notamment en montagne, du côté d'Arnégui, là, au col, il n'était pas rare de trouver des jeunes qui vous invitaient à taper la balle. Dans tous les villages, il y a un fronton. Hein.
Voilà, il y a un fronton. Alors c'est pas le même, c'est un fronton qu'on appelle place libre, qui est à l'extérieur, c'est un mur, voilà, et effectivement il y en a un par village, comme un golf en Écosse, il y en a un dans
c'est
chaque
ça.
Village
ou comme un terrain de pétanque en Provence, quoi, voilà.
C'est un peu c'est vrai que les jeunes jouent, alors ça se joue à la main nue, ça se joue avec d'autres instruments,
des petites raquettes en bois, genre un peu comme le jocari, quoi, c'est-à-dire
tout
des raquettes en bois plein.
Tout à fait. Mm-hmm. Il y a des trinquets, il y en a beaucoup plus en France. Hein.
Oui.
C'est, voilà. Et puis, il faut savoir que c'est vrai que c'est un sport local, mais il y a une fédération française, il y a une fédération mm-hmm. internationale. Mm-hmm. Il y a une vingtaine de pays qui jouent à la pelote basque avec des spécialités différentes.
D'accord. Et alors, est-ce que c'est un sport qui est en plein essor? Est-ce que c'est vivace? Est-ce que ça marche bien?
Alors, il faut batailler un peu, parce que il y a des spécialités qui ont tendance à disparaître. La Sestaputa, pour le moment, oui, parce que on a une télé qui s'intéresse à nous, et qu'on arrive à diffuser des parties tout au
d'accord.
long de l'année.
D'accord. Donc, Michel, si je suis vacancier, si je suis pas basque, je débarque, il y a moyen de s'initier rapidement, de jouer
tout
un petit
fait.
Peu, parce que c'est un peu comme le squash, quoi. Hein, ça s'apparente
oui,
un peu.
Alors, c'est un peu pareil. À la seule différence, que quand on parle du gant et du chistera...
Ah là oui, là c'est autre chose. Hein, oui.
Voilà, c'est-à-dire que vous visez le mur de face et vous l'envoyez derrière. Donc c'est un peu compliqué.
Non,
mais il y a des initiations deux fois par semaine dans les rails à l'ail à Saint-Jean-de-Luz, sans problème. Et puis il y a la possibilité d'assister à ces internationaux tous les mardis et jeudis, et voir vraiment des professionnels jouer par des gars qui sont des athlètes. Joueurs, Eric Irastorza, français, Iñaki Goicoechea, espagnol, mais c'est des gars qui font plus d'un mètre 90, plus de 5 kilos, et qui se déplacent très très vite.
Oui, et on préfère les avoir devant que dans le dos, hein, quand ils se déplacent vite.
Tout à fait. Ça pourrait être de bonnes troisième ligne de rugby.
Oh oui, alors. Ouais. Merci Michel Billac, qui est l'organisateur des internationaux de Sestaputa, mais aussi de la semaine lusienne. Voilà, un petit coup de projecteur sur le sport au Pays Basque, la pelote basque et Saint-Jean-de-Luz. Bonne journée et bon été au Pays Basque. Mes amis, on continue notre virée sur la côte basque et on se retrouve dans un instant.
Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
De retour sur la route, voilà, on continue notre tour de France et aujourd'hui on fait étape sur la côte basque. Ça, c'est un chouette coin de France. Et notamment, vous l'avez bien compris, parce que ça a démarré comme ça, par sa gastronomie. Parce que les gens, ils rentrent du Pays Basque, la première chose dont ils vous parlent, c'est qu'est-ce qu'on a bien mangé. Voilà. Et alors, ce matin, je reçois en studio un ami et un très grand chef qui m'a fait l'amitié d'être avec nous, c'est Christian Etchebest. Bonjour Christian.
Bonjour Vincent, bonjour tout le monde.
Le plus basque des Parisiens ou le plus parisien des Basques, je ne sais pas comment on dit. Mais en tout cas, la cantine du Troquet, ça marche du feu de Dieu.
C'est
toi qui as un peu, en fait, amené, avec avec quelques amis quand même, cet esprit basque dans la capitale, hein, on peut dire.
Oh, je pense que l'esprit basque, il y était depuis tout le temps, mais c'est vrai que nous, on a continué, mais on avait nos anciens qui étaient venus avant nous. Pas mal de basques qui étaient montés à Paris et voilà, nous on a continué tout simplement.
Bon, ben tu restes avec nous et tout à l'heure on parlera de cuisine basque, mais pour l'instant on va s'intéresser au menu du jour avec quelqu'un sur place.
Sud Radio, les routes de l'été, le menu du jour.
Ah, il faut voir, il y a Christian Etchebet, s'est mis à danser dans le studio là. Il est pratiquement debout sur la table. Ça, c'est un peu les ambiances de fin de soirée, hein, quand on sort à Ranchaleac, hein, Christian.
Ah oui, souvent c'est comme ça.
Tu t'en doutes. Alors, il y a peu de restaurants dont on peut dire qu'ils ont un hymne chanté. Et bien celui-là, oui, ce restaurant donc éponyme Ranchaleac. Ranchaleac, ça veut dire les pêcheurs. Et bien, il se trouve où ? Bah évidemment, au bord de l'eau, à Cibourg, sur le bord du port. Cibourg, c'est le port de Saint-Jean-de-Luz. Hein. C'est juste en face, en quelque sorte. Et je suis en ligne avec Ramoncho. Bonjour Ramoncho.
Bonjour Vincent, bonjour tout le monde.
Salut Ramoncho.
Il y a Christian qui est avec nous.
Ouais. Ah voilà, vous avez un grand chef de Paris.
Ouais. Et un grand chef de Cibourg. Ramoncho Courdet, le chef du restaurant Ranchaleac. C'est ça un Ranchaleac, ça veut dire les pêcheurs?
Tout à fait, tout à fait.
Parce que je me mets au basque, hein, mais j'ai du temps devant moi quand même. Hein. petit à petit. Alors je disais, avec cette musique, c'est extraordinaire parce que du coup, c'est une musique extrêmement traditionnelle à Ranchaleac, hein, cette chanson.
Ah, elle est connue, hein, elle est bien connue, un peu même partout dans le monde. C'est que le groupe, c'était des anciens pêcheurs, ouais, et des jeunes, et puis ils ont même parcouru, ils ont été chantés aux États-Unis, en Afrique, un peu partout.
Et du coup, ça porte l'image du Pays Basque, mais aussi du resto. Et ça, c'est pas mal. Alors, votre resto, Ramoncho, on peut dire, il est placé sur le port.
Voilà, juste à côté du port, au bord de la Nivelle.
Ouais, ouais. Ouais, c'est magnifique. Donc, vous êtes le premier sur le quai lorsque les bateaux rentrent avec les poissons tout frais.
Bien sûr.
Ouais, ça fait partie du métier de restaurateur et de chef. Hein. Ouais. Donc, du coup, on peut dire que Ranchaleac, c'est un restaurant avant tout de poissons et de fruits de mer. Hein.
Bien sûr, l'auberge aux poissons, comme disaient mes parents.
Ouais.
Parce que les pêcheurs, ils passaient devant, et hop, ils s'arrêtaient, ils disaient un coup, tout ça, ils amenaient du poisson, et puis il a commencé comme ça à leur faire griller. Et après, ça s'est transformé en restaurant, tu vois, au fil des années.
Oui, et alors, moi, ce que j'aime bien chez vous, je le dis parce que je connais l'endroit, on pourrait se dire, oui, c'est devenu extrêmement touristique, etc. Pas du tout, c'est resté tradit, c'est resté un restaurant de copains avant tout. Hein, Christian, on peut dire ça, non ?
Ah oui, non, mais c'est exceptionnel. Moi, je dis toujours, quand les Parisiens ils me demandent ici où c'est qu'on peut aller manger des poissons au Pays Basque, je leur dis toujours, j'ai le meilleur restaurant de poissons. Mais je leur dis, le meilleur restaurant du monde, hein,
Mister Ranchaleac.
C'est du monde, moi, je dis tout le temps. Pour moi, c'est le meilleur restaurant de poissons. Pourquoi ? Parce que c'est très simple et c'est le produit. Il le coupe en deux, les langoustines, avec le charbon, là, sur le grill.
Le brasero.
Ouais. Après, les turbos, tout ça. Mais c'est tellement simple comme cuisine, mais c'est tellement le produit que moi, je dis toujours à tous mes clients, je leur dis, c'est le meilleur restaurant, mais du monde de poissons.
Chers auditeurs qui nous écoutez, c'est terrible parce que vous savez très bien que ces derniers trois quarts d'heure des routes de l'été, on commence à saliver et on n'en peut plus et on a juste envie de se jeter au restaurant à l'heure du déjeuner. Alors ça tombe bien, on est chez Ranchaleac à Cibourg. Qu'est-ce que c'est le menu du jour, Ramoncho ?
Aujourd'hui, moi, j'ai une suggestion, je veux dire, ça, on appelle ça le coup de pêche, le coup de filet,
ouais,
si l'on veut.
Et pas alors, le coup de fusil.
Aussi, là, en entrée, ça va être le coup de fusil, on va dire.
Alors,
en entrée, je fais c'est du cochon de chez Eric Hospital.
Aïe. Ospi. Voilà. Un copain de la bande, là. Oui. Ah ouais.
Voilà, c'est le roi de la nuit, on va l'appeler.
Petit clin d'œil, Ramoncho. Petit clin d'œil, là, vous êtes pas mal tous les deux.
Où ça balance, dis, là, voilà. Ça balance. Alors, comment il est préparé, ce cochon?
Ça, c'est les poitrines, c'est les cochons qui servent pour faire les jambons de Bayonne.
Ouais.
Et c'est la poitrine qu'on cuit doucement, et après qu'on découpe en carré et on la fait griller.
Aïe. Ça peut me faire traverser la France à genoux, pratiquement.
Voilà, alors on la sert avec une salade de pommes de terre, ou sinon là, avec des langoustines à côté, des petites pommes de terre.
Ah, c'est ça, pas mal, c'est langoustine l'entrée. Et cochon, ça marche
mariage,
bien.
Ouais, mariage, ouais, terre et mer.
C'est bon, mariage.
Ouais.
Mariage terre et mer, les gens, ils adorent.
En plat, qu'est-ce qu'on va avoir ? Du poisson, quand même ?
Ouais, plat. Et là, j'ai acheté ce matin du thon blanc de Ligne.
Du thon germont.
Ouais, ça commence, c'est les premiers qui ont commencé à pêcher. Ils ont pris 3 tonnes. qu'ils ont ramené là au port.
Oh là là là.
Alors, c'est des petits, ils font dans les 6 kilos.
Ah oui, les bébés.
C'est pêché à la ligne, ouais.
Non, je dis les bébés, c'est pour dire c'est déjà des belles bêtes. 6
ouais,
kilos,
c'est pas mal.
Et alors ça va être extrêmement moelleux. Comment est-ce que c'est préparé? Juste grillé?
Voilà, ceux-là, on les coupe en tranches, comme ils ne sont pas trop gros, on fait des belles tranches.
Ouais, ouais.
On les pique avec des petites lamelles d'ail.
Ah bah ouais, ouais.
Tu vois? Et après, on a juste assaisonné, sel, poivre, un peu de piment, d'espelette. Et après, on les fait griller.
Ouais.
Et on les légèrement rosé, on
une
va
petite,
dire.
Une petite piperade avec
Voilà, exactement. Bien. Voilà,
ah, voilà, voilà. Toujours, on est bien, on est, ici, on est bien, on est à la maison, là.
Ouais, c'est notre garniture, hein, c'est les légumes du Pays Basque.
Oui, c'est ça.
Et en plus, c'est à saison. Il y a les piments verts d'Anglais, c'est les tomates.
Oui, d'ailleurs, on aura juste après, on aura un producteur de piment vert d'Anglette, parce que moi, c'est pratiquement une religion, le piment vert d'Anglette, hein, le piment doux. Alors, OK, donc on a notre thon blanc et qu'on garde bien moelleux à cœur, j'imagine, hein, pas trop cuit.
Bien moelleux. Et après, tu fais chauffer un peu d'huile d'olive, tu jettes quelques pétales d'ail que tu fais frire, et t'arroses sur le poisson. T'arroses le poisson et après un peu de vinaigre.
Ah, j'allais dire, pas un petit coup de vinaigre. Oui, c'est ça, c'est ça, le truc basque, ça.
Mais tu le mets en dernier, le vinaigre. Enfin, si tu le jettes dans l'huile, ça va sauter. On risque de
D'accord, on le met juste au dernier moment sur le poisson.
Voilà, ça te donne l'acidité et c'est sympa comme tout.
Ah, pas mal. On peut même mettre du vinaigre de cidre, hein, parce que les Basques, ils sont bons pour le cidre. Ils disent qu'ils ont inventé le cidre. Ça énerve un peu les Bretons, mais...
On a tout inventé, non ? Les Basques, on a tout inventé, Ramuncho, je crois, non ?
C'est bon. Et en dessert, Ramuncho, qu'est-ce que... Pour faire passer tout ça, parce que là, on est léger pour l'instant.
Ouais. On fait du blanc manger. Je refais, tu vois, c'était un des plus vieux desserts de la cuisine. Alors, je le fais avec du lait de brebis.
Ah,
donc
ouais.
On a plein de brebis, nous, on a du fromage de brebis et on a du lait. Alors, c'est du lait de brebis, avec du lait de brebis qu'on fait chauffer, si tu préfères.
Ouais.
Après, on incorpore de la crème montée et des blancs d'œufs.
Ah, ça fait un dessert. Ça c'est fait collé au blanc d'œuf, c'est pas collé à la gélatine, c'est ça?
On peut en mettre un petit peu si on veut, comme ça on est sûr que ça tienne.
C'est très léger.
Pour vous donner l'idée, c'est comme une panna cotta, quoi. C'est une sorte de panna cotta basque.
Bravo.
Ouais.
Bravo.
Donc, et ça, effectivement, c'est beaucoup de liquide, hein, donc c'est assez léger parce qu'il y a beaucoup d'eau et pas tellement de matière grasse.
Bien, tout à fait, voilà. Et puis, comme il commence à faire chaud, donc c'est bien, c'est un dessert d'été.
On peut rajouter quelques petits fruits là-dessus, si on veut, ça, ou à côté.
Oui, et Christian, il n'a pas assez mangé, Christian Etchebest. Il dit qu'il veut en plus des fruits. Hein.
Moi, quand je vais chez Ramuncho manger, déjà, je bois bien et je mange très bien. Et je sors, je suis heureux. C'est mon meilleur restaurant, je vous l'ai déjà dit.
Oui, on a compris.
Aujourd'hui.
Bon.
C'est un beau compliment.
Ramuncho, à travers les vitres, on voit le port de Cibourg, les bateaux qui vont et qui viennent. Et ce menu du jour, ce menu de coup de filet, ça coûte combien ?
Qu'est-ce que je vais dire ? L'entrée, ça coûte entre 10 et 12 euros.
Ouais.
Le thon, là, comme c'est pas cher, ça coûte, c'est autour des 16 euros.
Ouais.
Et les desserts, je crois, c'est 6 euros.
Donc c'est un menu à 30 balles, quoi.
8 euros, ouais. Un
menu à 30 balles, il faudra rajouter la boisson, évidemment. Mais écoutez, moi, je serais prêt à payer le billet d'avion pour venir, là, vraiment.
Bon, il n'y a pas de problème.
Christian.
Et chez Ramuncho, il ne faut jamais oublier aussi le déjeuner des mouettes, hein.
C'est ça,
hein, Ramuncho.
Bien sûr.
Le
bien
déjeuner,
sûr,
oui. Tout le temps, à 11h30, non c'est...
Non, 1h30.
Ah, pardon. 1h30, devant chez lui, il donne à manger aux mouettes depuis ton père, je crois, qu'il avait mis ça en place.
Ouais, c'est
une tradition. Mais... On voit les enfants qui attendent que Ramuncho donne à manger.
Là, c'est pas les pigeons, c'est les mouettes et les goélands.
C'est magnifique, parce qu'ils donnent bien à manger, il y en a plein qui arrivent, c'est joli devant le restaurant, c'est magnifique.
Ok, merci beaucoup Ramuncho et une très belle journée sur le port de Cibourg. Nous, pendant ce temps-là, on a des crampes d'estomac. Parce qu'à parler et à ne pas goûter, on va se retrouver immédiatement maintenant avec un producteur, je le disais à l'instant, parce qu'il y a des splendeurs dans ce terroir basque.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, les routes de l'été, un trésor du terroir.
Un trésor du terroir, il y en a vraiment un. On parlait de piperade à l'instant. La piperade, c'est donc piper, hein, c'est le piment, hein, le piment, qu'il soit doux ou qu'il soit fort. En basque, on dit bipera, qui est en fait pas très loin, hein, sur le plan de la consonance et de l'étymologie. Et ce matin, j'ai demandé dans notre coup de fil à un producteur, à Henri Pond, d'être avec nous. Bonjour Henri.
Bonjour, c'est pas Henri, c'est Émile.
Ah, Émile, pourquoi j'ai mis Henri? Eh ben voilà.
Je sais pas.
C'est nul. Eh ben voilà, alors, ça doit être un ancêtre.
Bonjour à tous.
Un ancêtre, excusez-moi, Émile.
Oui. Émile. C'est pas grave.
Alors, cher Émile, vous êtes producteur d'une splendeur de ce terroir de la Côte Basque, qui est le piment doux vert d'Anglet.
Oui. Alors, racontez-nous.
Ah bah non, vous savez que moi je suis convaincu. Hein. Mais ce que je voudrais, c'est convaincre tous ceux qui nous écoutent ailleurs et qui ne connaissent pas cette splendeur. On peut dire, d'abord, c'est un piment, un petit piment que rien ne distingue d'un piment fort à l'œil.
Non, tout à fait. C'est le gros problème que l'on a justement parce que dit piment, dit piquant. Et alors, et c'est un produit même à maturité qui rougit. Et alors, piment rouge, là, c'est vraiment très piquant. Et c'est un piment qui met vert ou rouge est toujours doux.
Le vôtre,
et,
oui.
Et très sucré et rouge aussi. Voilà.
Alors, vous partagez ça avec les Landais, hein, parce que on entend souvent parler aussi de piment doux des Landes. C'est la même variété. Ce sont les mêmes variétés,
c'est-à-dire qu'on s'est mis en syndicat. L'origine, c'est le piment d'Anglet. On s'est mis en syndicat, on avait le Seignanx et le Pays Basque, et on a fait une marque qui s'appelle Biperestia, justement.
D'accord,
on parlait de Biper. Et voilà, et on commercialise ce produit ici dans la région, et on essaye avec un petit groupement d'intérêt économique, on essaye de le faire connaître en dehors du zonage ici du Pays Basque.
Alors moi, je vais vous dire un truc, hein, et c'est pas la première fois que je le dis, donc c'est pas pour de la flagornerie. Je dis souvent, si on pouvait vendre du piment doux d'Anglet partout en France, le poivron vert aurait du souci à se faire. Hein, parce que c'est en fait un goût, c'est ce goût de piment génial, c'est bien meilleur que le poivron, à mon sens.
Bien sûr. Complètement.
Ah oui, tout à fait, oui, je suis entièrement d'accord.
Mais c'est une toute petite production.
Très heureux de vous l'entendre dire.
Mais c'est une toute petite production et personne ne peut en avoir tellement au-delà des frontières du Pays Basque.
On essaye de développer ce produit en dehors de ce zonage. Mais il faut tomber sur la bonne personne qui veut mettre ce produit en avant. C'est le gros souci qu'on a. Alors, on va jusqu'à Lyon, on a été jusqu'à Limoges, dans le Grand Sud, mais au-dessus, c'est très difficile de trouver la bonne personne pour pouvoir commercialiser ce produit.
Voilà. Christian Etchebest.
La production, c'est combien
En tonnage, par an,
c'est combien?
En tonnage, moi je plante à peu près entre 8, ça dépend des années, entre 8 et 10 000 pieds de piment.
Non mais l'ensemble de la production
piment
vert.
L'ensemble de la production chez nous, ce ne sont pas des grosses quantités, ça doit tourner entre une trentaine ou cinquantaine de tonnes.
Ah ouais, c'est tout petit.
C'est minime. On essaye de développer, on a un label, on a une reconnaissance de qualité et on essaye de demander à des producteurs de venir nous rejoindre. Bon, on a quand même un cahier des charges qui est assez strict et ça ralentit un peu les gens de vouloir venir vers nous. Quoi, voilà.
Oui, bien sûr.
Mais ce cahier des charges, il est strict parce qu'il y a un label et puis bon, il faut pour la qualité du produit. Quoi.
Voilà. Émile, le plus connu, évidemment, au Pays Basque, c'est le piment d'Espelette, parce que c'est un piment rouge fort, en tout cas chaud, sans être vraiment fort.
Pas très piquant, mais chaud.
Il est connu parce que c'est un condiment et que ça voyage partout, évidemment moulu ou même entier, alors que vous, c'est un produit frais uniquement.
C'est un produit frais, c'est un légume. Hein. C'est un légume qui est ramassé à partir de début mai jusqu'à fin octobre. Après le mois d'octobre, le mois de novembre, avec les différences de température, il prend un peu d'amertume, donc il est moins bon. Le meilleur, c'est maintenant, là, le mois de mai, le mois de juin.
C'est la saison, là.
Il est excellent. On est en plein dedans.
Une belle petite omelette, là, il n'y a rien à dire. Omelette au piment, c'est la meilleure.
Je dirais même oignon nouveau et piment doux d'Anglet.
Moi, que piment, mais après, s'il y a 2-3 champignons, je vais mettre 2-3 champignons, un peu de piment, un peu d'oignon, et après, je vous invite, il n'y a pas de souci.
Roulez jeunesse, roulez l'été. Émile, ce piment, alors, ça veut dire que aujourd'hui, si je viens pour les vacances, je vais en trouver partout au Pays Basque, dans les restaurants. Hein. Quand on mange une piperade, elle doit être faite avec ça.
Voilà. On essaye de jusqu'à c'est la période maintenant où on va pour produire énormément dans le secteur et on vend jusqu'à maintenant on le vend en poche parce que bon ça nous permet un peu de valoriser un peu bien plus sûr, le produit mais à partir de maintenant vous allez le trouver en vrac sur les marchés. Il faut faire les marchés. Mmh. Il faut faire les marchés parce que vous avez il n'y a pas une ferme où il n'y a pas un petit jardin dans le coin du Pays Basque qui n'a pas planté 20 pieds de piment. C'est sûr, nous allons trouver surtout dans les marchés où voilà et dans les grandes enseignes aussi puisqu'on travaille avec je vais pas dire
non, heureusement que vous distribuez
avec des centrales d'achat qui nous respectent surtout aussi et voilà et on travaille avec
eux. OK,
voilà.
Merci beaucoup Émile Pont, producteur de piment doux vert d'Anglette que je vous invite à goûter absolument si vous êtes passage en Pays Basque, c'est même la première chose à goûter même avant le gâteau basque, je dirais. Hein, vous aurez toujours le temps de le goûter derrière. Allez, on se retrouve dans une seconde pour continuer à se faire saliver de façon basque, bien sûr.
Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
Les routes de l'été qui font étape aujourd'hui sur la côte basque. On a visité Bayonne, on a visité Biarritz, on a été à Cibourg en face de Saint-Jean-de-Luz. Enfin, on fait un peu le tour. Puis là, on était à Anglette avec les piments doux verts d'Anglette d'Émile Pont. Un produit absolument merveilleux. Et en studio avec nous ce matin, un chef et un ami, donc je ne ferai pas l'injure de le vouvoyer. C'est Christian Etchebest. Hein. Christian, merci d'être venu. Alors, tu remontes du Pays Basque, là, d'ailleurs. Tu étais un petit peu en balade.
Non, là, j'étais juste à côté. J'étais à Béarn, mais je vais descendre un peu cet été.
Ah, mais c'est bien aussi, hein, parce qu'il y a une dualité béarno-basquaise ou basco-béarnaise. Oui, mais bon, toujours, en fait, c'est le même département, c'est les Pyrénées-Atlantiques, et nous, on aime ça. Alors, on va te retrouver immédiatement pour parler de cette belle cuisine basque.
Sud Radio, les routes de l'été. C'est qui le chef ?
Alors c'est qui le chef matin ? Bah c'est Christian. Alors là, moi je peux pas dire le contraire. Christian Etchebest, on le connaît par ses restaurants parisiens où règne l'esprit basque dans la capitale, aussi parce que tu as fait de nombreuses incursions télévisées, radiophoniques.
Un petit peu, c'est ça.
T'es un peu un chef radiophonique et télévisuel. Hein ?
Ouais, un petit peu.
Oh, dis-tu pas un petit peu. Avant
tout, je suis cuisinier, c'est la cuisine.
C'est ça, oui. Et l'accueil, hein, ça compte énormément chez toi. Alors je voulais qu'on revienne ensemble sur cette cuisine basque parce que c'est une cuisine vraiment de produits, hein, de produits transformés simplement.
C'est ça, la cuisine basque, je pense que c'est ça, c'est une cuisine avec du caractère. Parce que les artisans qui font les produits, les agriculteurs, voilà, au Pays Basque, on a du caractère. Je pense que les produits qui sortent, ça a du caractère. Et c'est la cuisine. Moi, je dis souvent, des fois, le produit se suffit à lui-même parce qu'il est tellement goûteux, tellement bon. Que voilà, c'est une cuisine simple, je trouve, la cuisine basque, mais avec du caractère, c'est bien relevé. Il y a du piment, d'Anglette, d'Espelette, et voilà. Et puis après, en France, on a un pays merveilleux, mais c'est vrai que dans le sud-ouest, c'est au Pays Basque. Moi, je viens de là-bas, du Pays Basque et du Béarn. On a quand même beaucoup, beaucoup de produits, on a tout, quoi. On a la mer à Saint-Jean-de-Luz, donc on a l'océan. Après, on a les terres, on a les cochons d'Éric Hospital, on a tellement de choses, j'ai envie de dire. On a les chipirons, le thon, on a les sardines, on a tout, j'ai envie de dire, au Pays Basque.
Oui, il manque pas grand-chose, hein. Les bananes, un peu. Mais bon...
ouais, c'est ça.
Non, mais je cherchais un truc, mais...
C'est vrai.
Et en plus, on n'en a pas trop parlé dans l'émission, il y a la pâtisserie et la confiserie. Hein.
Bien sûr.
Que le gâteau basque, c'est un emblème.
Bien sûr.
Il y a cette fameuse cerise noire, dite Sassou. Alors, là aussi, c'est une petite production, hein. C'est
Toute
un peu
petite.
Comme le piment vert d'Anglette. Hein.
Toute petite production, effectivement.
Mais ça, parce que le gâteau basque, c'est un peu comme un gâteau breton, c'est-à-dire c'est un gâteau au beurre, hein, un gâteau
complètement
assez simple.
Ça, hein.
Et dedans, on va y mettre coulis ou crème pâtissière.
Crème pâtissière ou la confiture de cerise noire et Sassou. Et là, on a le vrai gâteau basque et on a quand même pas mal de pâtissiers. Au Pays Basque, ils nous font ces gâteaux à merveille. Hein.
J'aurais pu appeler mon ami Thierry Bamas.
Qui est
vraiment un super...
C'est que j'ai travaillé avec lui il y a 25 ans, ou 30 ans, on a travaillé au Grand Hôtel ensemble avec Thierry Bamas.
Au Grand Hôtel à Biarritz
Saint-Jean-de-Luz.
Saint-Jean-de-Luz, tu veux dire.
Il y a bien une trentaine d'années, je le connais bien, Thierry. Je le salue, tiens.
Ah ben bah voilà, Thierry, qu'on embrasse et que j'ai eu souvent dans l'émission Place du Marché. Hein. Et puis, bon, des confiseurs célèbres, on était à Saint-Jean, il y avait la maison Paris-Est. Hein,
Paris-Est, oui.
Et ces fameux canougas qui sont des caramels hallucinants.
C'est ça. Et puis même Paris-Est, ici, ils ont une boutique à Paris, si on va les goûter, On a une boutique dans le six, ils ont une boutique dans le sixième, alors là.
Et ils ont créé un truc qui est pas mal, c'est le gâteau basque au chocolat. Il est pas mal celui-là, parce que le chocolat, c'est très bayonnais aussi.
Bien sûr, hein. Bien sûr, ah, le chocolat est arrivé par Bayonne.
On en parlait tout à l'heure. Christian, comment est-ce que toi, tu as mis en œuvre l'esprit basque en cuisine à Paris, en deux minutes?
Bon, en deux minutes, c'est très simple, parce que moi, mon père, il était de la Soule, donc moi, j'allais depuis tout petit.
La Soule, c'est une des régions. Hein,
oui, une des régions au Pays Basque, vers Mauléon, entre Mauléon et Oloron. Donc moi, j'ai été béni là-dedans, donc j'étais béni dans ces bons produits. Mon père, il avait une ferme, les poules, les lapins, le jardin, donc voilà. Après, j'ai appris mon métier un peu partout en France, au Pays Basque. J'ai été sur la Côte d'Azur, à Paris, j'ai appris. Et après... Voilà, c'est ma région, ça revient naturellement, donc moi je me force pas à défendre ma région, mes producteurs, et à faire cette cuisine. Je vais pas faire la cuisine du Nord, j'en connais pas assez, donc je fais la cuisine que j'aime par-dessus tout. Donc voilà, c'est un esprit, après la convivialité, la gentillesse et la bonne cuisine, c'est les trois mots que je dis pour mes restaurants, qu'on a mis en place depuis 20 ans, et on continue... Et voilà, la vie est belle, et puis on va se ressourcer au Pays Basque, et la vie est belle.
Sur le plan des produits, évidemment, tu le disais, c'est très terre-mer, c'est-à-dire cette dualité poisson-cochon.
Oui,
hein,
oui,
on peut dire, au fond.
Parce que les gens, ils adorent cette ils adorent autant manger
et
du cochon
aussi,
tout seul.
D'ailleurs.
L'agneau, bien sûr, on a les agneaux de lait qui sont magnifiques. Oui. Mais après, quand on arrive à faire facilement des mariages terre-mer, des chipirons avec des pieds de cochon, vous allez vous régaler, on peut faire tellement de choses à poitrine de cochon, comme il disait, avec du thon, n'importe quoi. Ces mélanges-là, terre et mer, je pense que les Français et même tout le monde adore ce mariage terre et mer.
Et puis comme c'est un endroit où il fait beau et alternativement assez pluvieux, tout pousse hein, au Pays Basque.
Ben oui,
sur
oui.
Le plan du végétal, non mais c'est vrai.
De toute façon, c'est bien vert hein, quand vous arrivez au Pays Basque, vous voyez que c'est quand même bien vert, c'est que quand même il tombe beaucoup de pluie. Mais bon, voilà, ça fait le charme du Pays Basque, c'est toutes les saisons, on a toutes les saisons au Pays Basque. Et ce charme... C'est ça qu'on aime au Pays Basque.
Alors, pour en terminer avec cette cuisine basque, il y a évidemment tous les produits d'un côté qui sont extrêmement respectés, j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire qu'on les transforme pas trop, on veut leur garder leur goût d'origine, simplement. Et donc, les process de cuisson, par exemple, c'est le royaume de la plancha.
Sauter. Oui, parce qu'il fait beau déjà quand même. L'été arrive, il fait beau. Au mois de mai, il fait beau. On a tous une plancha dans le jardin. Et le plancha, on fait tout ce qu'on veut. On peut faire l'entrée, le poisson, la viande, le dessert, des fruits, tout. Il faut juste maîtriser les cuissons. Donc les planchas, il y en a beaucoup au Pays Basque. Et c'est une cuisine tellement saine. On met juste un peu d'huile d'olive, on met son poisson, on l'envoie, un coup de citron dessus, un peu de vinaigre, comme disait Ramucho. Et voilà. La plancha, magnifique.
Eh ben voilà, et tout ça, ça donne envie d'aller à la cantine du Troquet, hein, chez Christian, où l'esprit basque règne en maître à la capitale, mais ça donne surtout envie de partir pour le Pays Basque, je vais te dire, hein, et d'aller se mettre face à l'océan avec quelques chipirons, c'est le nom des calmars, des petits calmars, tels qu'on les mange au Pays Basque.
Et de l'ail, du persil.
Ah, merci Christian, ça m'a fait bien plaisir. Allez, on va immédiatement, avant la fin de l'émission, quand même offrir un guide Michelin. Parce que tout à l'heure, je vous posais la question, de quel sport avons-nous parlé? Est-ce que nous avons un auditeur ou une auditrice en ligne? Allô, allô? Bonjour. Comment vous appelez? Marisol, c'est ça?
Alors, je m'appelle Marisol et j'habite à Pau et j'adore le
coach. Ah, ben voilà. Allez, ça
je
y est.
Je crois qu'il connaît Pau aussi.
Ah, j'étais hier, je rentre ce matin. J'ai travaillé hier à Pau.
C'est l'agence matrimoniale, voilà, c'est Marisol qui t'adore, voilà.
J'essaierai de venir manger chez vous.
Quand vous voulez, avec plaisir.
Marisol, pour vous faire gagner le guide Michelin, le guide rouge, qui est une des couleurs du Pays Basque, édition 2019. Alors, quel était le sport dont nous avons parlé? C'est un peu facile pour vous, hein?
Bah, c'est la pelote basque.
Eh ben ouais, bien sûr. On aurait pu parler rugby, on aurait pu parler surf. Hein, sur la côte basque, mais c'était la pelote basque. Laissez votre adresse au standard, je vous envoie le guide. C'est très utile lorsqu'on se déplace pendant les vacances et qu'on veut trouver les bonnes maisons. Merci Christian, bonne journée à toi. Bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Merci Marine.
Merci à vous
et
tous.
On se retrouve demain sur les routes de l'été du côté du Vaucluse. On partira d'avion. Avignon, on ira dans le Luberon, on découvrira ça, c'est aussi une belle région,
très belle région.
Et sur le plan gastronomique aussi. Bonne journée à tous à l'écoute de Sud Radio et surtout ne descendez pas de voiture, demain la route continue.